Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix sur Sud Radio, avec un trio qu'on va qualifier de particulièrement homogène. Le président, pour commencer, de l'Institut de la Parole, auteur d'un excellent livre d'aphorismes. Alors c'est une excellente idée de cadeau de Noël, si vous aimez rire. Et en plus, il y a de la profondeur. Philippe Bilger, ce livre, c'est Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir.
Merci, mon cher Philippe.
Caroline Pilastre, vous la connaissez, consultante dans le domaine du handicap visuel. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et quelqu'un qu'on connaît bien maintenant dans les vraies voix, Didier Lebray, ancien ambassadeur, faut-il vous appeler Excellence ?
Jamais. Ou par intermittence.
Ou alors, non mais vous êtes toujours excellent.
J'essaie surtout.
Bien dans le micro.
Surtout quand je suis à Sud Radio.
Vous pouvez le tirer vers vous, c'est solide. Allez-y.
Avec vous, mon cher Philippe.
Eh bien, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Nos deux grands débats à 17h30. L'ouverture à la concurrence du rail est-elle une bonne chose depuis hier? Vous pouvez aller de Paris à Lyon avec Trenitalia, la SNCF italienne. Enfin, vous pouvez même pousser jusqu'à Milan, en passant par Turin, Modane et également Chambéry. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, vous l'avez essayé, c'est les frecciaros, c'est les flèches rouges, les TGV italiens. Alors ils sont très beaux, la peinture est très belle. Si vous avez essayé hier ou aujourd'hui, vous pouvez appeler bien sûr le 0826-300-300 à 18h30. Allez-vous respecter les recommandations du conseil scientifique pour les fêtes? Ah oui, vous avez vu les nouvelles recommandations du conseil scientifique. Hein. Vous devez vous assurer que tous vos invités ont bien leur dernière dose de vaccin, qu'ils ont fait un test PCR ou antigénique. Bref, on imagine que les fêtes de fin d'année vont se passer dans une ambiance absolument géniale. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. Et les réseaux sociaux, comment vont les vraies voix?
Bien, très bien. Enfin,
très
je
bien,
prends
mon
la
cher
parole
Philippe.
En premier.
Vous, mon cher Didier.
Ravi d'être là.
Comme tous nos camarades autour de cette table.
Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vais commencer par un tour de table impérial et je ne vais pas le faire tout seul.
L'enfant, la vie de la gloire, Napoléon, Napoléon.
Alors oui, vous reconnaissez Tino Rossi, les pyramides, Napoléon Bonaparte, oui, parce que je suis content et je vais rendre hommage à quelqu'un qui est avec nous. Puisque, à Rouen, on va remettre la statue de Napoléon. Bonsoir, Jonas Haddad.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la région Normandie. Et c'est pour ça que qu'on vous a pris dans mon tour de table, dans mon coup de cœur, puisque vous êtes à l'origine de ce référendum, on va dire ça comme ça, ou du retour de Napoléon, enfin de sa statue, hein, parce que le faire revenir en vrai, ce serait compliqué, du côté de Rouen.
Alors, je ne suis pas à l'origine, mais la personne qui est à l'origine, c'est le maire. C'est-à-dire qu'en gros, le maire voulait passer en force et nous avons demandé qu'il y ait une consultation des habitants. Et donc, il a donné droit à cette demande parce qu'il voyait qu'il y avait un tollé général lorsqu'on voulait remplacer Napoléon par Gisèle Halimi en déboulonnant Napoléon. Et effectivement, on a obtenu gain de cause là-dessus. On a eu cette consultation. Le résultat est sans appel puisque 68% des Rouennais ont voté pour le non-remplacement de Napoléon. Ça aurait été quand même gravissime parce que ça aurait été la première ville en France dans laquelle on déboulonne un personnage historique, premièrement. Deuxièmement, si vous voulez, l'excuse qui avait été donnée de féminiser la place, en fait, c'était une façon pour le maire de Rouen d'avoir lui aussi son gadget un peu woke, hein, comme le maire de Bordeaux ne voulait pas de sapin.
Oui.
Le maire de Strasbourg ou
le maire de foie gras, le maire de Lyon du Tour de France.
Du Tour de France, lui, il ne voulait plus de Napoléon. Et ça nous faisait tous très mal au cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé et qu'on a gagné.
Voilà. Jonas Haddad, vous allez échanger avec les vraies voix. Je partage mon tour de table aujourd'hui et je donne la parole à l'empereur des vraies voix. C'est plus le président, la Philippe Bilger.
Mon cher Jonas, encore une bonne action à ton actif. Et je suis ravi que le bon sens populaire l'ait emporté. Il faut arrêter tout de même de déboulonner, de remplacer des gloires incontestables, même avec des ombres, bien sûr, par des réputations discutables. Moi, je suis très heureux.
Jonas Haddad.
Merci, cher Philippe. Et vous savez, j'ai parlé à pas mal d'historiens, et il y en a un qui m'a dit un truc que j'ai beaucoup apprécié. Il m'a dit « Ce n'est pas aux nains de juger les géants de l'histoire ».
c'est beau.
Et j'ai trouvé cette phrase très belle, parce que si vous voulez, ça correspond bien à cette volonté anachronique qu'ont certains élus aujourd'hui qui, pour se pousser du col, cèdent à ce mouvement indigéniste et woke qui veut arracher des pages d'une autre histoire. Mais finalement, vous voyez, à la fin, c'est les gentils qui gagnent, hein, puisque ça fait 68% de gens qui votent contre. Et puis, on sait très bien que, par exemple, vous voyez, les soutiens de cette mouvance-là, qui sont tous très proches d'Anne Hidalgo, les maires des grandes villes, en réalité, bon, bah, aujourd'hui, c'est sanctionné, c'est à 3-4% dans les sondages. Finalement, il y a un juste retour des choses.
Voilà. Caroline Pilastre.
Oui, je rejoins également M. Bilger. Je suis ravie, en fait, de cette décision. Je vous explique pourquoi. Qu'on soit pour ou contre Napoléon, nous avons le droit, nous sommes en démocratie. Mais vous l'avez très bien dit, hein. Moi, le wokisme, je commence à en avoir plus que ras la casquette. Recontextualiser
mais
l'histoire...
Mais vous n'avez pas de
casquette. Non, je n'en ai pas. Recontextualiser l'histoire, c'est impossible, c'est improbable. Parce que, justement, l'histoire, avec un grand H, n'est pas toujours propre, mais nous ne pouvons pas la ramener à notre période. Nous pouvons essayer de la comprendre, nous pouvons l'expliquer, même dans les universités. Mais vouloir déboulonner les statues, ça rappelle quand même des heures sombres de notre histoire. Et moi, ça m'inquiète. Toute cette idéologie d'extrême gauche, pour moi, n'est pas républicaine. Donc, je suis très contente que Napoléon reste à sa place.
Jonas Haddad et après Didier Lebray.
Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Il faut quand même qu'on soit extrêmement vigilant parce que dans le vote, subrepticement, c'est glissé une volonté de la part de la mairie, je les cite, de mettre un élément explicatif du contexte historique et politique de cette statue. Donc je vais être extrêmement vigilant parce que si l'idée c'est de reboulonner Napoléon, mais au final de nous expliquer que c'était un grand méchant, déjà je vais être extrêmement vigilant là-dessus. Et deuxièmement, bon, là, je vais faire un peu d'humour, mais je sais que je suis dans votre émission et que j'ai le droit de le faire.
Oui.
Je vais faire attention à ce que ce soit pas en écriture inclusive.
Ah non, merci.
Didier Lebray, qui va pas parler en écriture inclusive, ça va?
Non, je vous rassure. Non, dans l'histoire de France, il y a eu beaucoup de périodes où on a déboulonné, où on a détruit, où on a reconstruit. Donc, je dirais, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui me paraît dommageable dans cette affaire, c'est que ce soit l'initiative d'un maire. Un maire n'a pas la légitimité pour réécrire l'histoire. Donc, effectivement, qu'il y ait une consultation populaire, je trouve ça bien. C'est une façon aussi de se réapproprier de nos pages, de nos grandes pages d'histoire. Mais moi, ce qui me gêne, et c'est ce qui vient d'être dit par plusieurs avant moi, c'est que, en réalité, ce dont on a besoin, c'est de comprendre, c'est de contextualiser, c'est pas de déboulonner et d'annuler. Ça n'a aucun sens.
Jonas Haddad.
Oui, c'était assez dingue parce que moi, dans le combat politique, j'aime bien qu'on joue, vous voyez, à visage découvert. Et au départ, quand ça nous avait été annoncé, ça nous était présenté comme une opération, je les cite, de reféminisation et de renaturation de la place. Donc, derrière les bons sentiments, en réalité, la volonté, c'était de déboulonner de Napoléon. Et dans le questionnaire, je vais peut-être vous faire sourire, mais moi, ça m'a fait pleurer, il était proposé même comme alternative, tenez-vous bien, d'installer des hôtels à insectes, des potagers partagés ou un parcours de senteurs à la place de la statue. Donc, si vous voulez, quand on en arrive à ces extrémités-là et dans cette caricature, c'est assez dingue. Donc, alors maintenant, naturellement, on va vous dire qu'on va respecter le vote démocratique, mais que de temps perdu, que d'énergie. Et au final, la question même qui se pose, c'est est-ce que c'était même légitime d'avoir un vote là-dessus? Pourquoi on met autant de tension dans la société alors qu'on aurait pu s'épargner cette tension, quoi?
Alors, Jonas Haddad, vous avez parlé avec des historiens, on suppose que c'est des historiens sérieux. La statue de Philippe Bilger à côté de Napoléon, c'est pour quand? Parce que ça Philippe... s'imposerait depuis le temps qu'on attend ça.
Philippe, ne commencez pas, je vous en supplie.
Mais Jonas Haddad, je suis sûr, est d'accord avec moi. Hein.
Non,
mais moi, je vois un référendum sur la question.
Parce que Philippe Bilger ne coche pas un certain nombre de cases. Selon leur idéologie, c'est un mâle blanc de plus de 50 ans. Il n'aura donc pas le droit à sa statue.
Ah bon?
Mais... évident. Oui. Et dans 50 ans, je serai déboulonné. Alors,
écoutez, Jonas Haddad, je le propose aux vraies voix. Vous êtes d'accord, Didier Lebray? Alors, Philippe Bilger, vous pouvez pas voter. Caroline Pilastre, on va faire un référendum pour une statue de Philippe Bilger à Arban. Vous êtes d'accord?
Je pense qu'un référendum à trois aura énormément de...
Bah, tous les mois, je vote pour.
Moi aussi, écoutez, aura du poids.
L'amitié l'emporte surtout.
Bah, écoutez, c'est voté à l'unanimité, Jonas Haddad. Vous pouvez demander le budget à la région dont vous êtes vice-président. Ça vous va?
Ah, j'ai passé une bonne soirée.
J'adore Philippe, mais...
Oui. Tu as raison, Jonas.
Ne nous faites pas de la politique politicienne, Jonas. Dites-nous la vérité. Est-ce possible?
Bon, il va falloir attendre un peu, si on a compris. Merci beaucoup, Jonas. Merci Haddad. Et bravo à celles et ceux qui se sont battus pour le retour de Napoléon à Rouen, puisque c'est quand même un des principaux personnages de l'histoire de France. À mon avis, peut-être le plus grand personnage de l'histoire de France, même si avec Louis XIV ou De Gaulle, ça peut se discuter. Mais après, c'est les goûts et les couleurs et c'est du travail d'historien. À 17h30, notre premier débat. L'ouverture à la concurrence du rail. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ça ne peut pas être plus partagé. Vous êtes à 50-50. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Libre Parole d'un Inclassable, publié à Nouvelle Librairie. Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel, et Didier Lebray, ancien ambassadeur et consultant. On va souhaiter deux anniversaires, c'est l'anniversaire d'une vraie voix aujourd'hui, Céline Revel-Dumas, donc elle était avec nous vendredi, on lui souhaite un bon anniversaire, et on avait Jonas Haddad, c'est son anniversaire aussi aujourd'hui, donc on lui souhaite avec un peu de retard un bon anniversaire. Le tour de table de l'actualité, le premier, c'est celui de Philippe Bilger.
Encore ces stupides actualités.
Ça dépend de la masse d'informations.
Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous.
Le tour de table
de l'actualité.
Et vous voulez parler, mon cher Philippe Bilger, du président candidat?
Absolument, Philippe. Normalement, et il va intervenir dans une émission qui a été enregistrée il y a quelques jours sur TF1 et LCI pour nous donner sa réponse, qu'on devine, sur « Où va la France ?». Alors, je suis scandalisé et je vais tenter d'être honnête tout de même. J'entends bien tous ceux qui me disent, mais tous les présidents ont fait pareil, ont fait la même chose. D'abord, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient fait tous de cette manière ostentatoire et délibérément cynique, c'est-à-dire venir mercredi prochain parler du futur de la France, en même temps qu'on oblige évidemment Valérie Pécresse à se déporter. Et deuxième élément, j'en ai par-dessus la tête de cet argument permanent qu'on oppose à la démocratie, qui consiste à dire « Ah oui, mais d'autres l'ont fait, par conséquent, il faut le tolérer ». Je ne crois pas que ce soit une bonne méthode intellectuelle et morale. Troisième élément, je suis très heureux que Valérie Pécresse ait pris le taureau par les cornes et après tout se soit interrogée sur l'indépendance du CSA et saisi cette instance pour voir s'il n'y a pas un peu d'abus. J'ai cru lire ici ou là qu'une décision favorable du CSA à son bénéfice ne serait pas absurde. Ça me ferait plaisir vraiment.
Caroline Pilastre.
Je comprends l'indignation de Madame Pécresse ainsi que du reste des oppositions, parce que là, on est en plein dans une monarchie républicaine. Alors, vous le disiez très bien, Philippe, Monsieur Mitterrand, Monsieur Sarkozy ont fait la même chose. Mais là, c'est sûr que 2 heures à la grand-messe de TF1 pour faire le bilan d'un quinquennat où n'est pas encore officialisé Monsieur Macron, on sait très bien qui va l'être, hein, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a des ministres tels Madame Elisabeth Borne ou Clément Beaune récemment qui ont tracté pour la Macronique, donc arrêtons un peu l'hypocrisie, on est en pleine campagne présidentielle, vient faire un genre de bilan. S'il venait parler de la Covid, de sujets sociétaux dans lesquels nous sommes, c'est tout à fait normal, c'est son rôle. Mais moi j'ai envie de vous dire, trop de communication tue la communication. Alors on nous parle du nouveau monde, mais là c'est enregistré, ça s'est enregistré dimanche. Oui. Qui dit enregistrement dit potentiellement montage et rajout peut-être d'autres sujets en fonction de l'équipe de campagne. Donc moi je ne trouve pas ça normal aussi qu'on en arrive à ce genre de communication. Et puis, moi, je pense surtout que la Macronie a peur. Ça me fait surtout penser à ça. Parce que avec l'arrivée de M. Zemmour, plus les bons sondages de Marine Le Pen récemment, ainsi que de Mme Pécresse, je pense que là, ils sont un peu moins sur deux et que c'est pour ça qu'ils veulent exister. Parce que vous savez, quand vous communiquez à outrance, c'est aussi une histoire d'existence.
Didier Lebray.
Non, moi je rejoins Philippe et Caroline, il y a un sujet pour le CSA à l'évidence. Simplement, puisqu'on est au vrai voie, je me fais l'avocat du diable. En fait, quand on quitte le pouvoir, on a à la fois l'appareil d'État, on a la machine qui a communiqué qui va avec, on est au centre du jeu, tout le monde suit vos faits et gestes. Et d'un autre côté, on va avoir l'extrême difficulté à expliquer pendant quelques mois que tout ce qu'on n'a pas fait, on va le faire au coup d'après. Donc je dirais que quelque part, ça n'équilibre, c'est pas pour équilibrer le fait qu'il y a à l'évidence un abus de position dominante, comme on dit en économie. C'est-à-dire que voilà, ils utilisent les moyens à leur disposition. Mais quelque part, est-ce que quand on exerce le pouvoir en fin de mandat, on est aussi audible que ça?
C'est votre tour de table de l'actualité maintenant et vous voulez parler de Claude Guéant, incarcéré Didier Lebray.
Alors, c'est peut-être mon passé d'ancien fonctionnaire. J'ai arrivé de le croiser, Claude Guéant, qui, pour le rappeler à nos auditeurs, qui a été un très haut commis de l'État, préfet, directeur général de la police nationale, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, après avoir été secrétaire général de l'Élysée. Donc en fait, il a coché quasiment toutes les cases du cursus honorum, comme on dit. Et je trouve que à un moment où les Français doutent de notre justice, avec le sentiment que les puissants échappent toujours à la justice, je trouve que la condamnation qui vient de lui être infligée, qui est effectivement infamante, dans le sens où aujourd'hui il est à la santé, à l'heure où on se parle, c'est la première fois qu'un ancien ministre de l'Intérieur purge physiquement une peine de prison. Je trouve que ce qui vient de se passer n'est pas du tout anecdotique, c'est une façon de rappeler à tous ceux qui nous dirigent que l'exposition et la responsabilité politique a une contrepartie qui est d'exercer de manière intègre les mandats qu'on nous confie. Et je voudrais terminer juste par une citation que je trouve amusante. Un crime n'est véritablement un chef-d'œuvre que si l'auteur reste impuni. Eh bien, je dirais que Claude Guéant n'aura pas réussi à réaliser son chef-d'œuvre.
Philippe Bilger, l'avocat général.
Didier, là, je ne suis pas totalement en accord avec vous. Et bien sûr, je m'étonne moi-même parce que, en général, je ne suis pas tendre avec tous ceux qui ont été dévoyés par le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a quelque chose qui me gêne là, au-delà de l'égalité nécessaire entre les citoyens devant la justice, c'est le fait que, lorsqu'on connaît la faillite dramatique de l'exécution des peines en France, et notamment pour les affaires les plus graves, et notamment sur le plan du recouvrement des amendes, j'éprouve comme un léger malaise à l'idée qu'on ait incarcéré Claude Guéant alors qu'il avait commencé très largement à régler et que son argumentation consistant à dire qu'il avait d'extrêmes difficultés financières n'était pas complètement absurde. Je pense qu'il y avait d'autres priorités que celle de Claude Guéant.
Caroline Pilastre, très court parce qu'on va faire les Pères Noël.
Il a été sanctionné. Je ne remets absolument pas en question la justice. Simplement, je trouve qu'il y a quand même un abus, dans le sens où c'est un monsieur qui perçoit 5 500 euros, qui doit rembourser 3 000 euros par mois, de retraite bien évidemment. Il a dit qu'il n'avait pas les moyens, justement, d'assurer cette somme. On nous dit régulièrement qu'il n'y a pas de place dans les prisons. On n'aurait pas pu lui mettre, à 77 ans, un bracelet électronique pour rester chez lui. On imagine bien qu'il ne va pas s'enfuir. Donc je trouve que la condamnation est un peu lourde, même si la sanction, il doit, comme n'importe quel citoyen, la régler façon de parler. Mais pour moi, en termes de traitement, je rejoins Philippe, je trouve que c'est un petit peu exagéré.
Didier Lebray, mais extrêmement court.
J'entends, mais je pense que pour beaucoup de nos compatriotes, il n'est pas normal que les responsables politiques échappent à l'exécution de peine.
On est bien d'accord, mais c'est vrai que l'honnêteté n'est pas une question de bord politique.
Les vraies voix, on va jouer les Pères Noël. Et c'est Noël sur Sud Radio. Votre cadeau est au pied du sapin de Noël de Sud Radio. Alors, on vous offre des iPhones, des tablettes avec Cash Express, des produits de beauté avec la Maison du Savon de Marseille. Alors, un truc vraiment très péchu, des sauts en parachute en tandem avec Chute Extrême. Ou encore le livre collector aimé encore dédicacé par Julien Doré, des chocolats Nougala. Bref, il y a plein de cadeaux. Philippe Bilger, donnez-moi un chiffre entre 0 et 10.
8.
Didier Lebray.
5.
13. Caroline de... Pilate. 15. Le 15e appel au 0826 300 300 gagne un magnifique cadeau de Noël Sud Radio. Le 15e appel au 0826 300 300. On vous retrouve tout de suite pour notre premier débat. L'ouverture à la concurrence du rail est-elle une bonne chose ?
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Yeah ! Hier soir j'ai pris le train pour aller à Saint-Tropez. Et dans mon wagon lit, dès que je suis arrivé, j'ai voulu monter mes valises dans le filet. J'ai tout pris sur
vous avez reconnu le chanteur ?
C'est pas Nino.
Non. Non, c'est un peu la même époque. Un grand chanteur, alors je vous ai dit guyanais. Henri Salvador.
Ah !
C'était Henri Salvador qui chantait, oui, il chantait une chanson sur le train, puisque depuis hier, vous pouvez aller de Paris à Lyon et même pousser le voyage jusqu'à Milan via Chambéry, Modane et Turin dans un train italien de la compagnie publique Trenitalia avec des prix alléchants, puisqu'un aller simple pour Lyon est proposé à partir de 23 euros. Une concurrence qui existe déjà de l'autre côté des Alpes, puisque Trenitalia y est concurrencé par NTV, une compagnie privée, ce qui a eu pour effet, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai pas pris les trains en Italie, de faire baisser les prix et d'améliorer le service, d'où notre premier débat. L'ouverture à la concurrence du rail est-elle une bonne chose ? Et vous êtes, c'est très 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 serré, 51,1% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Fabien Dumas, cheminot et secrétaire fédéral de Sudrail, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, cette annonce de l'ouverture à la concurrence sur le Paris, allez, on va rester même en France, on va pas aller jusqu'à Turin ou Milan, sur le Paris, Lyon, Modane, Chambéry.
C'est une bonne nouvelle Je sais pas. C'est certainement une mauvaise nouvelle pour la SNCF. Je pense moi aussi que c'est pas une très bonne nouvelle pour les usagers. Et je peux vous expliquer pourquoi. La Trenitalia, vous avez dit, arrive avec des prix très compétitifs. Moi, je sais pas quel est leur modèle économique, mais les prix qu'ils pratiquent là, ça m'étonnerait qu'ils puissent dégager de la marge. Je vois pas comment ils pourraient faire. Donc, on a un petit peu l'habitude parce que. Au tout début des cars Macron, on pouvait aussi traverser la France entière pour 15 euros. Et puis, ben, les compagnies, là, toutes les compagnies des cars Macron, là, elles ont toutes coulé les unes après les autres. Et ben, à ma connaissance, là, ça fait pchit. Donc, on va voir. Pour les usagers, moi, j'attends de voir. Je suis pas sûr qu'ils aient complètement mesuré ce que ça voulait dire, l'ouverture à la concurrence. Par exemple, on prend son train, son billet de train et on roule avec Trenitalia. On rate son train. Ben, le suivant, c'est un train SNCF, on peut pas prendre le suivant, vous voyez. Et vu qu'ils vont faire 5 trains par jour, ben, il va falloir attendre un petit moment avant de pouvoir prendre le suivant. Donc voilà, pour les usagers, je suis pas sûr que ça améliore la qualité de l'offre. Et puis après, Trenitalia, faut quand même rappeler que ça fait 10 ans hein, qu'ils sont présents en France. Il y a une filiale qui s'appelle Tello. Et Tello, ben, lors du premier confinement, ben, ils ont dit, nous, avec le confinement, on va plus être rentable. Donc, ils ont plié bagages. Ils ont dit à tout le monde « ciao ». Et puis, du jour au lendemain, ils ont disparu. Donc, si on veut faire du service public avec des entreprises qui sont là, et puis dès l'instant où c'est plus rentable, elles s'en vont, je pense que ça va être difficile. Donc là, encore une fois, demander aux usagers qui empruntaient la filiale Tello, la filiale de Trenitalia, qui du jour au lendemain a disparu, je suis pas sûr qu'ils soient très satisfaits.
Alors lui, c'est un grand fan du train. Il préfère même le train à l'avion, Philippe Bilger.
Absolument, je comprends les interrogations de Fabien Dumas, même si bien sûr je n'ai pas son savoir dans le domaine ferroviaire. A priori, lorsque j'apprends cette nouvelle, je suis naturellement en accord avec l'ouverture à la concurrence dès lors qu'elle est libre et loyale. Mais des débats récents m'ont opposé à des gens et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on propose l'ouverture à la concurrence, on s'interroge en même temps sur le moyen de compenser pour le service public français ce qu'il va perdre. Alors, je ne sais pas si véritablement cette ouverture à la concurrence va être une bonne chose pour l'usager, je l'espère. Pour la SNCF, je n'en sais rien. Est-ce que on sera obligé de compenser ces pertes ? Fabien Dumas, c'est de l'amateurisme. Hein. J'en ai bien confiance dans mon questionnement, mais ce sont des questions qui sont venues à l'esprit dans l'après-midi.
Il a pris le train en marche, Philippe Bilger. C'est pour ça, Fabien Dumas.
Votre remarque, monsieur, est très pertinente. En effet, la SNCF, le modèle économique du TGV à la SNCF, c'est un modèle économique qui est basé sur la péréquation des lignes. C'est-à-dire que on nous a obligés à financer sur fonds propres. C'est d'ailleurs ce qui a creusé la dette de la SNCF. Hein, c'est pas le statut des cheminots qui a creusé la dette de la SNCF, c'est ça. On nous a obligés à financer sur fonds propres toutes les lignes TGV. Or, des lignes TGV, il y en a deux qui sont rentables. Surtout une, la ligne Paris-Lyon. Et là, on va venir se faire concurrencer sur la ligne Paris-Lyon, qui est la seule vraiment rentable. Et dans le même temps, on nous demande de continuer à faire du Paris-Bar-le-Duc. Et donc, faut bien mesurer que pour les usagers, maintenant, on est une entreprise comme tout le monde. Hein, depuis la loi de 2018, on est constitué de 5 SA, 5 sociétés anonymes. On peut faire faillite. Et donc, moi, je suis curieux de savoir comment on va s'en sortir si on se fait concurrencer sur le mode, sur les lignes qui sont rentables, parce que nos lignes rentables servaient à financer les lignes non rentables. Maintenant qu'on se fait concurrencer sur les lignes rentables, par Trenitalia qui arrive avec des prix défiant toute concurrence, et sans subvention, je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir, je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à desservir et à assurer le service sur les lignes qui ne sont pas rentables. Donc, je pense en plus que pour les usagers, cette fameuse concurrence va conduire à une attrition de l'offre sur les autres lignes. Donc voilà, moi aussi, je suis curieux de voir comment ça va se passer, mais à mon avis, mal.
Caroline Pilaf.
C'est le principe de l'offre et de la demande. Simplement, moi, je voudrais savoir si en termes...
Quand on fait du service public, madame, l'offre et la demande...
Oui, mais vous savez très
normalement,
bien que...
Le service public, c'est offrir la même offre. Dès l'instant où on est sur le territoire français, tout le monde doit être desservi
pareil. Sauf que ne nous leurrons pas, ça fait des années que c'est dans les cartons de la part de la SNCF d'ouvrir la concurrence. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement...
Ah non, les cartons de la SNCF.
C'est l'Europe qui l'a imposé.
Hein. Oui, non, mais d'accord, mais ça fait des années qu'on en parle de la concurrence.
Sûr.
C'est pas arrivé comme ça sur la table.
Et la SNCF n'en voulait pas.
Maintenant, moi, je voudrais savoir, en termes de service, ce que ça va changer. Pour nous, évidemment, le contrôle des rails, parce que moi, je suis très inquiète au niveau des équipements et de la logistique. Et puis, en dehors de parler des usagers, monsieur, qu'est-ce que ça va changer pour vous, les cheminots? Puisque je fais une extrapolation, mais vendredi, vous êtes encore en grève, période de fête de Noël. Donc, moi, je voudrais juste savoir, au niveau de la défense de vos droits, ce que ça va changer concrètement, parce que ne parlez pas des usagers et de la clientèle à tout va, c'est surtout vous que ça impacte.
Alors, la réponse notamment, on commence par le réseau. J'estime que Trenitalia, enfin, ou les autres qui vont arriver, ils doivent payer le passage sur les rails, non ?
Oui, ils payent. C'est une anomalie à notre sens. C'est-à-dire qu'on a fait financer les lignes TGV sur fonds propres de la SNCF. C'est un peu comme si on avait demandé à Calberson ou des grands transporteurs routiers de financer les routes sur lesquelles ils circulent. Parce qu'on parle toujours de la dette du ferroviaire, on parle pas de ce que coûtent les routes. Et dans le même temps, on paye des péages pour circuler sur les lignes que nous avons financées. Donc, Trenitalia va financer, va payer les mêmes péages, sauf qu'eux, ils n'auront pas payé la ligne. Mais ils vont payer le même péage que la SNCF. L'ouverture à la concurrence sur les lignes TGV ou Intercité, qui sont des transports non conventionnés, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'une convention, ça se fait en open access, c'est-à-dire que n'importe quel opérateur ferroviaire peut arriver et dire moi j'achète tel sillon qui correspond à un horaire de départ, un horaire d'arrivée, et il a le droit de circuler sur le sillon.
Et pour les cheminots, ça change quoi? Et après, on donne la parole à Didier Lebray.
Pour les cheminots, ça va correspondre à une baisse de charge, c'est-à-dire que ces trains-là qui étaient faits par la SNCF avant, ils sont faits par d'autres personnes, donc il y a des cheminots qui restent sur le carreau. Donc, en toute façon, on a un petit peu l'habitude parce que, hors ouverture à la concurrence, on était déjà sur une trajectoire emploi d'à peu près moins 2500 à moins 3000 cheminots par an depuis des dizaines d'années. Donc, ça va continuer. Voilà.
Didier Lebray.
Alors, moi, je vais juste me... interroger Fabien sur deux aspects qui me paraissent essentiels pour contextualiser un peu cette affaire. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le train a une double mission. Il a une mission sociale et écologique. Sociale, on l'a vu au moment des Gilets jaunes. Je doute que l'ouverture de la concurrence profite aux intercités ou aux TER. J'imagine mal...
Ils vont pas faire du Figeac, ils vont pas, ça,
voilà,
c'est clair.
C'est évident. Donc on est bien content d'avoir un opérateur national qui peut, pour le coup, faire ce travail qui n'est pas un travail qui vise forcément une rentabilité maximale, mais en tout cas qui a une fonction très importante pour maintenir le pays ensemble et où les gens se sentent pas trop éloignés des services. Ça, c'est la première chose. Et écologique, parce que le but ultime de tout ça, c'est quand même de réduire notre empreinte carbone, de limiter les trajets absurdes en avion. Et le train, je rappelle quand même la ligne Paris-Lyon qui, au début des années 80, transportait 7 millions de personnes. Aujourd'hui, on est à 50 millions de personnes.
C'est énorme.
Et c'est encore extensible. Ce qui veut dire que peut-être, et ça Fabien, c'est peut-être la bonne nouvelle, je vous pose la question de la concurrence, peut-être que le gâteau est encore un peu extensible et que la SNCF ne perdra pas trop. D'ailleurs, moi je me félicite de voir que la SNCF a préparé ce moment. Les trains sont en train d'évoluer, on se met au niveau de la concurrence italienne. Il faut peut-être rappeler aussi que les trains, les fameux trains italiens magnifiques que l'on voit, que tout le monde, sur lesquels tout le monde flash, ils sont construits par Alstom. Oui. C'est français, donc il faut aussi arrêter de se battre la coupe et de croire qu'ailleurs l'herbe est toujours plus verte. Donc voilà, et je précise aussi, et Fabien me contredira pas, que le premier prix, c'est pas le prix de Trenitalia, c'est Ouigo. Ouigo est en dessous du prix qui est proposé par Trenitalia. Donc il y a encore quelques raisons d'espérer que la SNCF tienne bon.
Alors, avant de donner la parole à Fabien, Trina, qui fait l'émission C'est votre avenir juste avant, a essayé d'avoir des billets de train sur Trenitalia pour Chambéry, et c'est exactement le prix de la SNCF, c'est pour mettre de l'eau à votre moulin à tous les deux. Fabien Dumas, pour répondre à Didier Lebray.
Oui, ben je suis pas étonné, et Didier Lebray a tout à fait raison. Sur le modèle TER, par contre, les opérateurs ferroviaires vont venir nous concurrencer quel que soit le secteur, parce qu'en fait les TER sont sous perfusion des régions, c'est-à-dire c'est du transport conventionné, donc c'est du transport qui fait l'objet d'un contrat entre l'autorité organisatrice qui est la région. Et puis la SNCF ou le nouvel opérateur ferroviaire, parce que toutes les lignes TER d'ici 10 ans ont toutes été ouvertes, ont toutes fait l'objet d'un appel d'offres. La rentabilité se jugera au seuil de ce que la région est prête à mettre comme argent public. Mais là encore une fois, il y aura des régions qui seront plus riches que d'autres, et il y a des régions qui pourront se payer leur train et d'autres qui pourront moins se payer leur train. Et donc voilà le mais mais voilà, on va voir comment ça va se passer. Toujours est-il que voilà, les cheminots, il y a une réelle inquiétude chez les cheminots. Je ne sais plus qui a évoqué le mouvement de grève qui s'annonce là, mais alors je peux vous répondre sur la question.
Allez-y.
On est dans un contexte de pandémie, ça aura échappé à personne. Nous, on nous a demandé d'assurer les trains pendant la pandémie. Bon nombre de régions, on nous a demandé de maintenir un service suffisant de façon à pouvoir emmener toutes les personnes qui étaient en première ligne, c'est-à-dire les personnels soignants, les caissières de supermarchés, tous les gens qui devaient maintenir une activité. Lors du premier confinement, c'est 100 000 cheminots qui sont allés travailler sans masque, sans gel hydroalcoolique, dans des conditions pas faciles. Enfin, moi, je suis conducteur de train sur la ligne B du RER. On nous a donné des lingettes Saint-Marc pour désinfecter notre train. Vous voyez,
c'est
juste, on n'avait rien, quoi. On n'avait rien, mais on a serré les dents et on a fait. Et ça fait 2 ans là que on a serré les dents. On n'a rien dit, on n'a rien fait. Et sauf que là, la coupe est pleine. On est dans un contexte difficile d'ouverture à la concurrence. Il y a une réelle inquiétude des cheminots. Tout augmente parce qu'il y a un contexte d'inflation qui n'aura échappé à personne. Il vient d'y avoir les négociations annuelles obligatoires. Encore une fois, la SNCF, la négociation, elle est vite faite. La SNCF arrive et dit il y a zéro. Ça fait 8 ans qu'on a zéro. 8 ans qu'on a zéro. Enfin, le SMIC vient d'augmenter. Zéro reconnaissance, pas une prime Covid, rien, et négociation annuelle obligatoire, zéro. Les cheminots, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol pendant toute la... Depuis 2018, on nous explique qu'on coûte cher, alors qu'il faut avoir une vision macro. On coûte cher, la route, avec l'accidentologie sur la route, ça coûte combien, ça? Je sais pas, moi. Les routes, c'est bien les contribuables qui les financent. Il y avait un seul endroit où on demandait aux usagers de payer, c'était sur l'autoroute, et on a tout privatisé. Ils ont essayé de mettre en place l'écotaxe, c'était un échec cuisant. Nous on paye nos rails, on paye pour rouler sur nos rails, on nous explique que le statut coûte trop cher, sauf que c'est pas le statut qui coûte cher, c'est bien les investissements sur le TGV, et ça fait 8 ans qu'on a un gel des salaires. Nos conditions de travail, elles sont pas faciles, parce que je vous ai expliqué la trajectoire emploi à la SNCF, elle est désastreuse. C'est à la SNCF le plus grand plan social français. C'est à la SNCF que ça se passe. Et voilà. Et on nous donne plus les moyens de travailler et on déroule le tapis rouge à la concurrence. Et enfin voilà, la coupe est pleine. Ce qui prédomine chez les cheminots, c'est le ras-le-bol. Et ce ras-le-bol-là, il s'exprime par le seul moyen légal qu'on a de l'exprimer, vu qu'on peut plus, on peut pas négocier avec la direction de la SNCF, c'est la grève. On en est désolé.
Merci beaucoup Fabien Dumas, cheminot et secrétaire fédéral de Sudrail. Pardon. Verdict sur Twitter, l'ouverture à la concurrence du rail est-elle une bonne chose? Eh bien vous êtes 51,9% à dire oui. Les vraies voix, on joue au Père Noël?
Ah oui.
Allez, c'est parti. Direction les Landes, direction Bénesse-Marem, c'est le sud des Landes, c'est pas très loin des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Élodie.
Bonsoir.
Vous avez été le 15e appel au 0826-300-300.
Oh, c'est génial.
Et mon petit doigt me dit que vous avez envie de savoir quel magnifique lot vous avez gagné.
Ah oui, j'aimerais bien savoir, oui.
Eh bien écoutez, nous sommes le 14 décembre, il est 17h46 minutes passées de pile 50 secondes. Eh bien avec Sud Radio et Cash Express, vous avez gagné une tablette Blackview.
Ouh, super, merci
c'est un
beaucoup.
Beau cadeau, ça, hein, génial.
Une tablette pour Noël, c'est un beau cadeau, non?
Ah oui, c'est un beau cadeau, merci beaucoup. Oh,
bon, on va vous poser une question indiscrète. Vous allez la garder pour vous, vous allez l'offrir?
Je vais la garder pour moi.
Ah bon? on ne vous en voudra pas, vous connaissez le proverbe, on n'est jamais si bien servi que par soi-même.
Voilà, tout à fait, non, on n'a pas de tablette, donc servira.
Vous êtes une auditrice régulière de Sud Radio?
Oui, j'écoute beaucoup le matin aussi, surtout.
Ah bah parfait, donc vous retrouvez Patrick Roger et Cécile de Minibus dans le Grand
voilà,
Matin.
Voilà, c'est ça, ouais.
Eh bien écoutez, c'est avec Les Vraies Voix que vous avez gagné. Les Vraies Voix qui vous félicitent, hein.
Ah oui,
Philippe
bravo,
Bilger, Caroline Pilat, Didier Lebray.
Merci beaucoup.
Et vous pourrez écouter les radios sur votre tablette d'ailleurs. Une
oui,
magnifique tablette Blackview avec Cash Express offerte par Sud Radio. Merci beaucoup à vous, Élodie. On salue nos auditeurs des Landes et des Pyrénées-Atlantiques puisque Bénesse-Marem ne sait juste qu'à la frontière. Les automobilistes connaissent bien, c'est là où il y a le péage. Ça vous dirait, Les Vraies Voix, dans quelques instants, là, la chronique présidentielle de Philippe Rossi?
Ah oui.
Et ben c'est pour tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilas, Didier Lebray, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et mon cher Philippe, l'émission prévue avec Valérie Pécresse demain soir est annulée.
Et oui, Valérie Pécresse devait détailler son programme demain sur une chaîne d'infos en continu, BFM, on va la nommer. Mais voilà, Valérie a vu rouge quand elle a appris que le chef de l'État serait le même soir sur TF1 et LCI pour un grand entretien.
Je suis très en colère.
Eh oui, elle est au maximum de sa colère, la Valérie Pécresse. Alors, écoutez la déclaration de la candidate des LR à propos de l'intervention d'Emmanuel Macron.
On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne, alors même que ses adversaires, eux, doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre. Donc, ça n'est pas ça ma conception de la démocratie. Donc, je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rétablir les qualités des temps de parole et, j'allais dire, le fair play démocratique dans cette élection.
Et voilà, Valérie Pécresse demande donc officiellement que le temps de parole d'Emmanuel Macron soit décompté. Alors, il n'y a pas que la candidate des Républicains qui crie au scandale. Marine Le Pen a appelé le chef de l'État à mettre fin sans attendre à un vrai faux suspense. Les oppositions de droite comme de gauche accusent Emmanuel Macron de faire campagne avec les deniers de l'État. Et puis, évidemment, tous le pressent à se déclarer. Alors, si on fait un petit tour en arrière... Voilà, petit retour en arrière, petit flashback. Les présidents sortants se sont en général présentés le plus tard possible. Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, a annoncé sa candidature le 2 mars 1981. Chirac, lui, c'était en février. François Mitterrand, lui, a annoncé qu'il se représentait, écoutez bien, le 22 mars 1988. D'ailleurs, c'était la déclaration de candidature la plus concise de l'histoire.
Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction d'Antenne 2. Ma première question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République?
Oui. Vous avez mûrement réfléchi?
Je le crois.
Voilà, c'est très très court, hein. C'était pas un ni oui ni non, mais ça aurait pu. Hein. Alors, Emmanuel Macron devra-t-il se déclarer un petit peu plus tôt que prévu? Tiens, Didier Lebret, et on demandera à Philippe Bilger et Caroline Pilastre juste après, ce qu'il va être obligé de se déclarer vite, le chef de l'État?
Je pense pas qu'il soit susceptible de céder à la pression, mais ouais. À mon avis, il va attendre.
Ouais. Philippe Bilger.
Oui, comme Didier, il déteste agir sous la contrainte. Et quoi que décide le CSA, il continuera. Mais le problème est moins de se déclarer tard que de ne pas montrer de manière ostentatoire avant qu'on est
ça,
totalement candidat.
Ça, c'est
et
vrai.
C'est ce qu'il fait.
Ouais. Et pendant que les ministres aussi distribuent des tracts sur les marchés.
Non, mais je comprends complètement l'exaspération des oppositions. Et pourquoi il va se déclarer tard? Pour avoir un maximum de temps de parole. Parce que comme ça, il n'est pas décompté pour le moment. Mais c'est sûr qu'il faut revoir les règles du CSA, parce que là, on ne les entend pas, contrairement à Zemmour. Hein. Bizarrement,
alors, en 2012, il faudrait vérifier, mais en 2012, le temps de parole de Nicolas Sarkozy à partir de janvier avait été décompté.
L'idée d'une primaire à gauche met Yannick Jadot sous pression.
Ah oui. Alors là, Anne Hidalgo a réitéré sa proposition de primaire à gauche, c'était avant-hier à Perpignan. Et alors hier matin, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui en a remis une petite couche. Voilà ce qu'il a dit, la course, chacun dans son couloir, c'est au bout une impasse. Il a écrit ça sur Twitter avec un petit hashtag, déconne pas Yannick. Histoire de mettre une petite pression aux candidats écologistes. Un hashtag qui a été repris ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Et Yannick Jadot à répliquer, écoutez.
Il faut qu'on soit un peu sérieux maintenant. On est à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Quand j'ai réuni, au printemps, tous les responsables politiques pour travailler sur le projet et un contrat de gouvernement, il ne vous a pas échappé que j'ai essuyé une fin de non-recevoir. Et maintenant, pour sauver le Parti Socialiste, on nous explique qu'il faut faire une énième primaire et on prend en otage le moment où il est temps de parler aux Françaises et aux Français.
Et voilà, il est en colère, hein, Yannick Jadot.
Je suis très en colère.
Bon, il est quand même un petit peu plus en colère que Valérie Pécresse. Oui, oui, c'est contagieux. Il va craquer ou pas, Didier Lebray, Yannick Jadot? Non.
Il est sous pression.
Il est sous pression, là. Déconne pas Yannick. Hein.
Excusez-moi, ça s'invente pas.
Il est sous pression de ses troupes, notamment de celles qui étaient juste après lui à primaire. Des Verts. Mais ce qui a changé entre le moment où il a fait sa primaire, où il a fait sa tentative de rassemblement et aujourd'hui, c'est que tous les candidats de gauche stagnent à un niveau qui est préoccupant. Donc la situation a changé.
Allez, on va se retrouver demain mercredi, pour un nouvel épisode de la primaire à gauche qui ne se fera certainement jamais. Je vous dis à demain.
Au revoir.
Ah bah vous voyez, vous étiez déclaré en mars 80, c'est ça?
Oui. Bah, je pense que je vais créer un hashtag déconne pas Philippe. Ah, je vais le lancer tout de suite d'ailleurs.
Vous parlez à Philippe Bilger, à vous
ou à moi? Non, à vous, à vous.
Oh, bah, merci. Hashtag déconne pas Philippe, c'est un néologisme. Et à mon avis, ça risque d'être amusant. Merci beaucoup, mon cher Philippe Rossi. On s'amuse toujours beaucoup avec vos chroniques présidentielles. Par contre, on va moins s'amuser aux fêtes de fin d'année. Oui, d'où notre grand débat. Allez-vous respecter les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes? Vous êtes 94% à dire non. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Libres propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel. Et Didier Lebray, ancien ambassadeur et consultant. À 18h30, notre grand débat. Allez-vous respecter les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes? C'est un score brejnevien, puisque vous êtes 93,8% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Ça va les vraies voix?
Très bien.
Très bien.
Et toi?
Bon, en pleine forme, ça va pour cette deuxième heure?
Bah oui.
Un petit tour de table de l'actualité, ça vous dirait? Eh ben c'est parti.
Ah oui.
Les vraies voix Sud Radio.
Et votre tour de table, ma chère Caroline Pilastre, nous emmène en Mayenne. Alors, je tiens à saluer quelqu'un de Sud Radio, Anne-Lise Ekman, qui travaille avec nous, donc, et qui fut d'ailleurs Miss Mayenne en 2008. Vous nous amenez où en Mayenne, ma chère Caroline?
À Congrayé, plus précisément, Philippe. Oui, ce soir, je voulais absolument revenir sur une belle initiative orchestrée par Monsieur Hervé Tison, maire de Congrayé, qui a décidé depuis un an de lutter contre le gaspillage alimentaire à l'école. Je vous explique le principe. Il a décidé de récupérer, reconditionner dans des bacs en verre la nourriture restante, non consommée par les enfants. Une dame de la cantine, quotidiennement, va apporter ses bocaux dans une épicerie qui fait également office de bar tabac et également de poste, qui va être dans un espèce de bac réfrigéré pour que les habitants de la commune puissent s'ils n'ont pas envie de faire à manger hein, ou qu'ils ont peu de moyens, se restaurer à moindre coût avec des aliments encore bons et consommables. J'ai trouvé que c'était une initiative formidable, puisqu'on parle d'écologie. Mais là, on est en plein dans l'écologie pragmatique. Et de fait, ce maire a fait des émules, des autres communes alentours et même de grandes villes. Voilà, je tenais à en parler ce soir.
Belle initiative, Philippe Bilger. Hein.
Ah oui, formidable. Je ne veux pas tomber dans la démagogie qui ne m'est
que trop naturelle. C'est pas dans votre genre. Hein.
Mais je... Pardon, je suis très admiratif devant l'inventivité citoyenne qui en général est favorisée par la crise. Et parfois, je sais que je tombe dans le paradoxe, je me dis que ce serait bien d'avoir une république qui laisse toute l'initiative aux citoyens et un peu moins à l'État.
Didier Lebray, belle initiative comme du côté de la Mayenne.
Absolument, non, mais c'est clair que c'est des... C'est en additionnant ce type d'initiative qu'on arrive petit à petit à faire bouger les comportements et à réduire aussi notre empreinte sur notre planète. Donc tout ce qui peut être fait pour économiser, pour être un peu plus sobre et respectueux et éviter de gaspiller, moi je prends.
Mais vous ne trouvez pas absolument aberrant les millions de tonnes de nourriture qu'on jette chaque année alors qu'il y a des gens qui ont faim? C'est pas une folie? Tiens, on nous crée toujours des taxes pour ceci, pour cela. Ça, ce serait pas, par exemple, une taxe plus intéressante à mettre? Les entreprises de restauration collective qui jettent de la nourriture, bah, vous payez une taxe. Et sinon, bah, si vous le donnez, je sais pas moi, au Resto du Cœur, etc., bah, là, vous avez... soit rien, soit un crédit d'impôt, par exemple, Caroline Pilastre.
Ah, mais moi, j'ai toujours trouvé ça lamentable. Sans faire de pathos, véritablement, quand on pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore de quoi manger, justement, tu parlais des Restos du Cœur, des épiceries solidaires, mais justement, il n'y a jamais eu autant de personnes. En plus, avec la crise, il y a eu 1 million de personnes en grande précarité qui n'ont pas de quoi manger et qui n'ont pas de quoi faire, même auprès de leurs enfants, 3 repas par jour. Donc, c'est essentiel. On n'est pas en train de parler de futilité, on est en train de parler d'alimentation.
Sujet sérieux, très sérieux. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger?
Oui, le comble, c'est qu'il n'est personne en France à qui on soumettrait cette idée de ne pas faire de gâchis, qui ne serait pas d'accord avec nous. Mais l'étonnant, c'est que plus une idée est évidente, moins on cherche à la réaliser. Je suis frappé, alors il y a eu quelques initiatives, mais c'est tellement évident cela, cette volonté de ne pas gâcher, qu'au fond, on considère qu'on se satisfait presque de notre indignation.
Didier Lebray.
C'est amusant parce qu'il y a quelques mois, l'Association des maires ruraux de France avait proposé au Premier ministre d'alors de créer un observatoire justement des bonnes pratiques locales, de façon à capitaliser sur ce qui est fait de plus intelligent et voir comment les étendre, les généraliser. La réponse du gouvernement, c'était circuler, il n'y a rien à voir.
Les vraies voix, 18h et presque 12 minutes. Dans quelques instants, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît très bien sur Sud Radio. Notre ami Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, pour le baromètre des personnalités IFOP Fiduciel pour Paris Match et Sud Radio. Et il y a de grosses surprises. Et tout à l'heure, à 18h30, notre grand débat. Allez-vous respecter les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes? Bah, ça continue à creuser, vous êtes désormais 93,9% à dire non sur Twitter. On se retrouve tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Didier Lebray. Il vient de sortir, c'est le baromètre des personnalités IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Nous sommes en compagnie d'une voix qu'on connaît bien, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir mon cher Philippe, bonsoir à tous.
Bonsoir Frédéric.
Alors tout d'abord, quand on regarde le baromètre IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, toujours Édouard Philippe en tête du baromètre des personnalités, est-ce que ça lui ouvre de nouveaux horizons?
En tout cas, il est en tête, c'est la première fois depuis longtemps. Et pourquoi Philippe, il est en tête dans ce baromètre? Car ce baromètre prend en compte l'effondrement de Nicolas Hulot. Puisque Nicolas Hulot, depuis le début du quinquennat, excepté une ou deux enquêtes, était largement en tête. Là, clairement, il y a une rupture d'opinion, un effondrement. Nicolas Hulot paye le prix des affaires de violences sexuelles autour de lui. Il perd 30 points. C'est un des records de l'histoire du baromètre. Hein. Ce baromètre, vous le connaissez, Philippe. Quand
absolument.
On perd 5, 6 points, il se passe quelque chose d'important. 30 points, ça le ramène presque au niveau de l'effondrement qu'avait connu Dominique Strauss-Kahn en juin 2011, après l'affaire du Sofitel. C'est clairement une rupture d'opinion qui fait que les Français n'éprouvent pas la moindre sympathie pour Nicolas Hulot, qui est bien sûr présumé innocent, mais qui est dans une tempête absolument inédite concernant un homme politique, une personnalité qui pendant longtemps a fait partie des personnalités préférées des Français.
Et il passe de la première à la 25e place, d'ailleurs il a cédé la première place à Édouard Philippe. Je vous pose une deuxième question et après vous allez échanger avec les vraies voix, mon cher Frédéric Dabi.
Avec plaisir.
Derrière Roselyne Bachelot, c'est Bruno Le Maire en troisième position, on le voit beaucoup ces derniers temps dans les médias. Est-il un Premier ministrable en cas de réélection d'Emmanuel Macron ?
Sans doute, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans la Macronie avec Roselyne Bachelot, mais qui a un rôle beaucoup moins concret pour les Français et moins à peser sur son quotidien. On a vu qu'il a profité, il a plutôt tiré parti de la crise. Les Français ont bien identifié son action, le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel. C'est quelqu'un qui a une histoire politique qui est antérieure au macronisme, qui est majoritaire à gauche, qui est bien vu à droite. Hein. L'image du traître qu'on a voulu lui coller n'accroche pas chez les Français. Et c'est vrai que c'est quelqu'un dans un contexte, on dit souvent que Emmanuel Macron manque de bande touche, qu'il n'a pas beaucoup de personnalité relais. C'est quelqu'un qui compte dans la Macronie. Et c'est vrai, peut-être, serait-il le rocard de Emmanuel Macron si le président sortant était candidat et s'il venait à l'emporter le 24 avril prochain.
Vous avez parlé du vent de touche. Je donne la parole au Lionel Messi des vraies voix, Philippe Bilger, qui lui n'est jamais sur le banc de touche.
Frédéric, deux questions très rapides. D'abord, le haut niveau d'Édouard Philippe, est-ce qu'il ne montre pas que finalement la candidature de Valérie Pécresse ne l'a pas gêné tant que cela? Et deuxième élément sur Bruno Le Maire, est-ce qu'il n'a pas des difficultés en quelque sorte tactiques? À la fois, il a conscience de son talent et de sa compétence, mais en même temps, il ne doit surtout pas manifester de manière trop ostentatoire ses ambitions parce qu'il pourrait désobliger le président. Est-ce que ça n'est pas un problème?
Alors, sur Édouard Philippe, n'oublions pas la méthodologie du sondage. On n'oppose pas des personnalités les unes par rapport aux autres, même si on a fait des duels. Et la performance d'Édouard Philippe n'empêche pas Valérie Pécresse de connaître un effet désignation lié à sa victoire au congrès des adhérents LR. Elle progresse de 5 points, elle devance pour la première fois assez nettement ses adversaires passés, Xavier Bertrand, Michel Barnier, qui sont en baisse, quand Éric Ciotti connaît une hausse assez important. Quant à Bruno Le Maire, oui, c'est intéressant ce que vous dites, Philippe, parce que je prenais en compte l'exemple d'un Michel Rocard nommé presque à contre-cœur par François Mitterrand, qui avait peur de voir en lui un futur successeur. Alors, toute proportion gardée, c'est peut-être, oui, un risque pour Bruno Le Maire, même si, je pense que je le répète, dans un contexte où Emmanuel Macron est quand même esselé, il apparaît isolé quand on fait travailler des Français sur des personnalités autour de lui, peut émerger spontanément à l'exception d'Édouard Philippe, qui lui, n'oublions pas, a quitté Matignon dans un véritable état de grâce.
Didier Lebray, bien dans le micro.
Non, j'imagine surtout le désarroi des Français quand ils regardent une liste de 50 noms dont, à mon avis, ils ne connaissent pas la moitié. Et deuxième observation, mais que Frédéric ne partage peut-être pas, est-ce que au fond, c'est pas un indice un peu de notoriété? Est-ce que dans le contexte actuel où on sait à quel point les politiques sont dans une relation de désamour avec l'opinion, est-ce que la question qui est la plus pertinente, c'est pas la dernière, est-ce que vous la connaissez suffisamment ou pas? Et quelle est la réponse des Français à cette question?
Alors, merci Monsieur Lebray pour votre question qui me permet de faire un peu de méthodologie. C'est vrai que vous avez raison, dans un contexte de défiance, la question qui se pose d'abord, c'est est-ce que les Français connaissent ces différentes personnalités? C'est pour ça que c'est le seul baromètre politique qui mêle de la popularité à de la notoriété. Et c'est vrai que quand, par exemple, un Jordan Bardella, une Barbara Pompili, un Bruno Retailleau sont dans les profondeurs du classement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas ils ont des mauvaises opinions, c'est parce qu'ils sont peu connus des Français, parce que là, le lien entre les Français et les politiques se construit lentement. Vous avez vu que dans cette vague d'enquête, on a fait entrer pour la première fois Éric Zemmour, qui lui est connu de tous, mais est la personnalité qui est la plus rejetée. Donc ça permet, en mêlant popularité et notoriété, de voir les personnalités qui ont une popularité en devenir, et celles qui ont une popularité certes forte, mais qui sont très fortement rejetées, qui sont des véritables repoussoirs, et dans cet anticlassement 3 personnalités émergent en termes de rejet, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Caroline Pilastre.
Oui, ma question va un peu dans le sens de celle de Didier. On sait que les sondages sont fluctuants. Mais est-ce que vous pensez, Frédéric, que le sondage à 4 mois de la présidentielle aide, permet aux indécis de se positionner pour éviter un maximum d'abstentionnistes ou que ça renforce un électorat?
Alors, déjà, ce n'est pas une enquête d'intention de vote, c'est une enquête de popularité. On peut être très populaire et ne n'avoir jamais été élu. Hein. Bernard Kouchner, par exemple, qui trustait la première place du classement, je citais Nicolas Hulot avant ses ennuis, et on peut avoir une popularité clivée, assez fracturée, et être fort en intention de vote. Marine Le Pen est 29e du classement. Aujourd'hui, elle est promise au second tour. Même chose pour Éric Zemmour. Maintenant, sur les sondages d'intention de vote, on leur porte une influence qui est réelle, mais on fait comme si, et c'est là je trouve ça un petit peu navrant, comme si le monopole de l'influence sur le vote des électeurs était porté par les sondages. Il y a les émissions de télévision et de radio, il y a la socialisation politique, il y a l'intérêt des Français. La société d'influence, oui, mais elle ne touche pas que le rapport des Français aux enquêtes d'opinion, qui sont moins fluctuantes que, je le répète systématiquement, donnent un état du rapport de force et ne sont pas en rien prédictives, même si il y a eu des élections présidentielles où la messe était dite 4 à 5 mois avant le vote, je fais référence à 88 ou à 2007.
Alors justement, il y a deux anciens présidents de la République au pied du podium, Emmanuel Macron en 4e position, Nicolas Sarkozy en 5e. Comment expliquer la présence de Sarkozy, qui est retiré de la politique depuis 5 ans à ce niveau?
Alors, mon cher Philippe, c'est une popularité d'estime. C'est quelqu'un maintenant qui clive moins l'opinion.
C'est comme Martine Aubry en 7e position, qui est en pré-retraite.
Voilà, une borne, elle est quand même maire de Lille, qui est quand même une occupation où on travaille plus que quand on est à la retraite, soyez pas si
sévère. Je dis en pré-retraite politique, elle sera pas candidate à la présidentielle, ce que je voulais dire.
J'en vais vous dire, elle n'est plus, elle a petite carrière nationale, si je puis dire, c'est ce qui est en ce moment écrit. Maintenant, c'est vrai que ce baromètre montre qu'il y a des personnalités qui ont une popularité d'estime, et c'est en ça, et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, que la popularité peut être une ressource, un ingrédient essentiel pour du vote, par exemple, à la présidentielle, mais ce n'est en rien une garantie de bien figurer dans un moment différent où les Français ne vont pas voter pour leur préféré, peut-être, mais pour celui qui paraît le plus crédible, celui ou celle à qui on peut confier les clés de la maison France.
Les clés du camion, comme on dit. Justement, exactement. Celle qui monte beaucoup, c'est Valérie Pécresse, plus 5% en 9e position, à 45% d'opinion favorable.
Oui, elle monte, c'est cet effet désignation dont on parlait. Alors, le François Fillon de novembre 2016 avait gagné 15 points parce qu'il était moins populaire. Je le répète, cette popularité est relativement fluctuante, mais en tout cas, dans le cadre de la compétition à droite, parce que cette présidentielle où la gauche est marginalisée va être une compétition entre des droites, la droite Macron, la droite canal historique Pécresse, la droite extrême Zemmour, la droite radicale Marine Le Pen, pour la première fois, Valérie Pécresse est en tête chez les sympathisants de droite.
Alors justement, une dernière question, Didier Lebray, qui est avec nous, a travaillé avec François Hollande. François Hollande est 10e personnage le plus populaire parmi les politiques des Français, avec 44%. Vous qui êtes un fan de Claude François, mon cher Frédéric Dabi, François Hollande, le mal-aimé, c'est terminé?
Alors, le mal-aimé, non, même s'il y a quand même un socle de mauvaises opinions importantes, puisque tout le monde, si je puis dire, le connaît, mais il y a toujours...
Il a gagné 5 points aussi.
Il a gagné 5 points, il avait perdu 5 points le mois dernier, c'est plus un rééquilibrage qu'une vraie percée, mais en tout cas, auprès du peuple de gauche, contrairement à ce qui a pu être dit, malgré une fin de quinquennat très difficile avec la loi travail, il garde une popularité, il garde une estime, et puis c'est quelqu'un... Vous parliez de Martine Aubry retirée des affaires nationales, qui parle, c'est un des premiers qui a réagi à la proposition d'Anne Hidalgo de faire une candidature d'union de la gauche, dans un contexte où, auprès des candidats de gauche, Yannick Jadot perd 6 points. Est-ce que c'est un effet collatéral de l'affaire Nicolas Hulot? Seul Jean-Luc Mélenchon progresse, mais il est à un niveau très faible et c'est une des personnalités les plus rejetées. Il faut regarder les deux côtés du versant de popularité.
Didier Lebret veut réagir, mais très court.
Oui, pour prolonger ce qu'a dit Philippe, en fait, les deux anciens chefs d'État, Sarkozy comme François Hollande, étaient à 24 et 22 au mois dernier. Ils ont fait une énorme remontada tous les deux. C'est peut-être parce que le débat présidentiel est enclenché.
24e et 22e, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Bah, c'est la remontada, donc ce n'est plus Arnaud Montebourg, c'est Sarkozy.
Mais non, il est trop occupé de son téléphone, Montebourg.
Merci. Oui, par là, le téléphone pleure. On reste toujours.
C'est très, très Claude François, mon cher.
Merci beaucoup Frédéric David, directeur général de l'IFOP. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Dans quelques instants, notre grand débat. Allez-vous respecter les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes? Vous êtes 94,1% à dire non. Wow. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. C'est
Ah oui, jeunes, vieux, grands et petits, c'est la fête, enfin. Le moins qu'on puisse dire est que les fêtes de fin d'année risquent de se passer sous cloche, et pas que pour les fromages et les gâteaux. En effet, le Conseil scientifique a émis hier ses recommandations pour les fêtes de fin d'année, et le moins qu'on puisse dire est que, pour reprendre le titre d'un film, Noël 2021 et le jour de l'an 2022 vont ressembler au non-sens de la fête. Reprenons ces recommandations. Pour les réunions familiales de type repas de Noël, le Conseil scientifique recommande de limiter le nombre de participants, de s'assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel, d'aérer régulièrement les locaux et de pratiquer un autotest le jour même ou un test antigénique la veille ou le jour même de l'événement, d'où notre grand débat. Allez-vous respecter les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes? Et pour le moment, vous êtes 94% à dire non. Avec nous, Pascal Charbonnel, médecin et membre de la Fédération des médecins de France. Docteur Charbonnel, bonsoir.
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 Quand on lit ces recommandations, on se dit que c'est surréaliste, on ne va pas demander le pass sanitaire à son fils et faire un test antigénique à sa sœur.
Bah, ça dépend de son fils et ça dépend de sa sœur. La question qui se pose, c'est effectivement, les recommandations du Conseil scientifique sont censées sur un plan scientifique, qui font leur boulot de scientifique. Après, on peut dire, moi je vais pas tenir compte de ce qu'ils disent, mais factuellement, ce qu'ils disent est adapté à la situation. C'est comme quand on vous dit, c'est préférable de rester dormir chez des amis plutôt que de repartir, reprendre la route avec un gramme 40. Il y en a qui reprennent la route avec un gramme 40, mais la réalité est la même. Ça veut dire qu'on prend des risques avec sa santé si on fait autrement. Après, chacun vit sa vie et chacun prend les risques qu'il estime nécessaires, mais encore une fois, les recommandations, malheureusement, j'imagine que les membres du Conseil scientifique auraient aimé dire « Ouais, cool, on peut se réunir à 55 et faire la bise à papy et mamie qui sont pas vaccinés et tout irait bien ». La réalité, c'est que tout va pas bien. On en est absolument, enfin tous les soignants en sont absolument désolés. Mais cette réalité scientifique, elle se confronte à une réalité sociologique de gens qu'on en a marre, mais c'est pas les porteurs de mauvaises nouvelles qui sont en cause, c'est les mauvaises nouvelles.
Philippe Bilger.
Sans avoir évidemment sa compétence, je rejoins le docteur Charbonnel, parce que en plus, je n'ai que trop tendance, depuis le début de la pandémie, d'avoir un fort caractère légitimiste. Je n'ai aucune compétence pour discuter les conseils qui nous sont donnés, et donc, pardon pour ce truisme, j'ai tendance à les suivre. Est-ce que je les suivrai dans le détail, dans toute leur exactitude? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je ne suspecte pas le Conseil scientifique d'une forme de sadisme sanitaire qui voudrait nous empêcher de vivre le caractère festif de cette période.
Docteur Charbonnel.
Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai que des mauvaises nouvelles à vous apporter. La seule vraie bonne nouvelle, c'est que quand on est vacciné...
Vous êtes churchillien, vous nous promettez du sang, de la sueur et des larmes.
Non, je vous promets des vaccins. Et je suis passé cet après-midi au centre commercial des Ulysses pour ouvrir un centre sans rendez-vous dès demain pour accueillir tous ceux qui veulent se vacciner pour la troisième dose. Je vous rappelle que l'efficacité de la troisième dose, c'est entre 48 et 72 heures. Donc, si vous êtes vacciné dès demain, vous êtes tranquille pour Noël. C'est pas de la pub que je fais. On a des réels moyens de faire que les choses se passent mieux pour tout le monde. Moi, je suis absolument désolé quand je vois l'état des services de réa, où effectivement on est face à des gens qui ont des faux passes sanitaires et qui sont dans des situations sanitaires dramatiques. Alors c'est ni du 100% d'un côté ni du 100% de l'autre. Si vous réveillonnez tout seul en face à face avec vous-même et l'écran de votre télé, vous pouvez ne pas être vacciné, ça pose aucun problème. Si vous voulez faire de la convivialité avec votre famille et ne pas mettre en danger des gens qui vous sont chers, la bonne solution, c'est de vous vacciner. Et même si vous prenez pas de risque pour vous, moi je dis régulièrement à mes patients, quand vous allez vous casser une jambe la semaine prochaine parce que vous allez glisser sur le verglas et qu'on va vous emmener à l'hôpital, qu'est-ce qui est le mieux dans ce cas-là, d'être vacciné ou pas être vacciné? Regardez ma consœur Martine Vonner, elle est dans quel état depuis qu'elle n'est pas vaccinée? Elle annule réunion sur réunion parce qu'elle a un Covid et que c'est une forme qui manifestement l'impacte beaucoup. Elle aurait évité ça en étant vaccinée. Alors il y a le discours d'un côté et puis il y a la réalité des faits que la sécurité sanitaire, elle passe par le vaccin. J'en suis désolé, mais c'est comme ça.
Caroline Pilastre.
Oui, moi je comprends les Français, c'est la deuxième période festive qu'on va passer avec ces conditions, ces consignes, ces injonctions. D'un autre côté, là où je vous rejoins, c'est de notoriété publique, mes parents ont eu le Delta. Ils ne sont pas encore remis. Ils ont des séquelles. Hein. Donc moi, je les ai vus réellement flancher avec cette saleté de Covid. Donc je sais à quoi m'attendre s'il y a de nouveau des clusters. Vous savez, quand ça vous arrive, c'est toujours la même chose. Hein. Vous n'êtes pas l'exception qui confirmait la règle. Donc je vais respecter, bien évidemment, parce que je serai en famille pour les fêtes, ce que vous nous imposez, ce que l'OMS impose. Maintenant, là où moi j'ai des soucis,
c'est que pas l'OMS, hein, c'est le Conseil scientifique.
Le Conseil scientifique, oui. Pardon, je pensais qu'il y avait aussi l'OMS.
Et puis, il n'impose pas, il conseille.
Oui, bien sûr, mais on sait très bien que c'est une indication un peu type injonction. Je m'inquiète des clusters qui vont avoir lieu après le 1er janvier à cause des fêtes clandestines. Parce que, ne soyons pas dupes, les boîtes ont fermé, mais vous avez beaucoup de jeunes qui vont se retrouver et qui ne vont absolument pas suivre les gestes barrières et compagnie. On nous parle déjà d'une sixième vague. Donc, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose. Jusqu'à quand? C'est la question que je me pose sans être une fois de plus une anti-vax. Jusqu'à quand cela va durer? Vous allez me répondre, on ne sait pas avec ce variant qui n'est pas létal, mais qui est plus contagieux. Je parle bien du Omicron. Donc, il y a un moment donné, moi, je veux bien, mais qu'on nous donne un peu plus d'informations, parce que vivre à chaque fois sur le fil du rasoir, c'est très compliqué psychologiquement.
Chère madame, on vous donne toutes les informations qu'on a et on ajoute même tous les doutes qu'on a. C'est la différence qu'il y a probablement entre les scientifiques et certaines vedettes de plateau, et je parle pas de vous. Oui, on a un doute. Oui, le Omicron, il est très ennuyeux parce qu'il est très contagieux, et même s'il paraît, et encore ça reste à démontrer, qu'il est un peu moins dangereux, comment il va y avoir plus, la réalité c'est qu'il y aura plus de gens atteints. Oui, on aimerait pouvoir vous dire que l'année prochaine Noël ça va être cool et qu'on n'aura pas besoin de faire une quatrième dose, je n'en sais rien. Par contre sur la quatrième dose, il y a un élément important, c'est que tous les vaccins que vous avez subis quand vous étiez petite et puis un peu moins petite et puis après, ça a toujours été avec trois doses. Hein, le seul vaccin qui comporte deux doses, c'est la rougeole. Pour le reste, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite virale, etc., on a toujours fait trois doses. C'est un mécanisme qu'on connaît. La première, c'est en gros 10% de réussite. Enfin, on va la mettre à un niveau 10. La deuxième, on la met à un niveau 100. Et la troisième, elle apporte une couverture qui est au niveau entre 1000 et 10 000.
Sauf donc que, ça, monsieur, je vous oppose à ça, que les rappels, c'était pas sous un délai de 6 mois. Et avec le vaccin, et vous savez très bien qu'on peut contaminer et être contaminant.
Je sais bien. Mais
c'est ça le problème. On sait très bien qu'on fait moins de formes graves, on nous le répète,
à tirer la rigueur. Madame, j'en suis désolé, on n'est pas parfait.
Non, mais c'est pas contre vous, bien sûr.
Non, je ne le prends pas contre moi. Je dis que la science n'a pas réussi à faire un vaccin avec une dose et qui nous garantit à 100% d'efficacité. Mais c'est vrai pour aucune des maladies. Et je vous rappelle, par exemple, l'hépatite B, c'est trois doses à 1, 2 et 6 mois. Donc, on est sur un schéma vaccinal tout à fait classique. La seule chose qu'on a oublié, c'est que on n'a jamais regardé quels étaient les schémas vaccinaux classiques avant de se poser la question. Donc, oui, on est dans une situation difficile. Oui, peut-être qu'à un moment ou un autre, il faudra refaire une quatrième dose. Mais oui, et le vaccin, c'est pas du 100%, c'est juste que du 90-95. Mais je prends toujours la même comparaison. Essayez de traverser une route. Si vous traversez un chemin vicinal à 5h du soir en pleine nuit, vous avez 99,99 chances d'arriver en face en bonne santé. Faites la même chose sur une autoroute, et ben vous allez avoir beaucoup plus de soucis. C'est la différence qu'il y a entre les non-vaccinés et les vaccinés. C'est tout. Bien sûr qu'individuellement, il y a toujours possibilité qu'une personne passe à travers. Mais collectivement, on le voit bien. Ceux qui sont en réa actuellement sont des gens non-vaccinés. C'est aussi simple que ça.
Didier Lebray. Après... Ah, pardon. Didier Lebray.
Je pense que le message essentiel, docteur, vous l'avez indiqué à nos auditeurs, c'est vaccinez-vous. Alors après, comment expliquer cette espèce de défiance ou de scepticisme des Français ? Peut-être Caroline l'a bien exprimé, il y a une volonté un petit peu de passer outre parce que voilà, on a tous besoin de se retrouver, etc. Mais je pense aussi c'est parce que les Français, là c'est peut-être une part de bon sens, se disent bon, 90% de la population française est vaccinée, il reste 6 millions et quelques de personnes qui ne le sont pas, dont plus d'un million qui ont plus de 65 ans, qui posent problème d'ailleurs parce que ce sont ceux-là qui, s'ils ne sont pas vaccinés, vont saturer les urgences et développer les formes les plus graves. Et donc, les gens ont le sentiment qu'ils ont fait une grosse partie du boulot et que donc, il n'y a pas de raison de faire des tests la veille, le jour ou le lendemain, etc. Donc, je pense que le résultat de cette enquête, c'est pas que les Français sont ni anti-vax, ni obscurantistes, ni anti-quoi que ce soit. C'est juste qu'ils considèrent qu'ils ont fait le gros du travail. J'entends ce qui est dit un petit peu partout, c'est que ceux qui n'ont pas fait leur première dose, on a du mal aujourd'hui à les convaincre, mais c'est vraiment sur ceux-là qu'il faut porter l'effort. Et peut-être moins, d'ailleurs, mais ça, peut-être, docteur, vous pouvez nous en dire plus. Moins sur les enfants, dont on voit bien qu'il n'y a jamais, pour l'instant, à quelques rares exceptions près, développé des formes graves. Et je trouve ça un peu dur de reporter sur les enfants l'irresponsabilité de ceux qui, par exemple, plus de 65 ans, les 1 million et quelques, ne l'ont pas fait.
Docteur Charbonnet.
Je ne juge personne sur son attitude vaccinale. Je sais que dans ma consultation aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, qui changent d'avis. Donc, cette tranche-là, il faut la respecter et il faut l'accompagner. C'est tout à fait essentiel. Bien évidemment, si le variant qui nous arrive maintenant est plus contagieux, il va forcément flamber chez les personnes non vaccinées. Et donc, les personnes non vaccinées vont se retrouver... le Covid va devenir une maladie de gens non vaccinés. Alors, on est à 85%, on est un pays qui a fait un boulot extraordinaire sur la vaccination, et Dieu sait si j'ai été critique, et pour autant, c'est ces gens-là qui sont en danger actuellement. Je parle de danger. Alors après, chacun vit sa vie et prend ses décisions. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, ce que je vois, c'est un sacré changement de l'opinion. C'est-à-dire les 85% de vaccinés commencent à penser que les non-vaccinés, ils nous gonflent grave, comme diraient mes enfants plus jeunes. Donc voilà, l'avis du conseil scientifique de dire mais faites gaffe parce qu'on est dans la même situation qu'il y a un an, et en plus si vous êtes vacciné pour des raisons épidémiologiques évidentes, vous êtes beaucoup plus en danger que vous ne l'étiez l'année dernière, oui c'est lourd, oui, mais moi j'ai des grands-parents qui ont passé 4 réveillons sous l'occupation allemande, alors franchement c'est que le deuxième sous le Covid, enfin la comparaison s'arrête là.
Oui,
la période est très difficile, oui il y a des risques à faire la fête sans faire attention, oui on met déjà en danger.
Avant de partir au 0826-300-300, parce que ça réagit, si on est vacciné, si tout le monde est vacciné, on peut faire la fiesta quand même. Ou alors, ça veut dire que le vaccin, je vais faire du Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Bah, il est peu efficace. Non, 60%.
Mais non, il n'est pas peu efficace.
Non, j'ai dit peu efficace, monsieur. J'ai pas dit pas efficace. Non, non. On nous dit souvent 60% quand même de taux d'efficacité.
Non. On est entre 80, on était à 95 après la deuxième dose. Donc, c'est la non-efficacité chez des gens très particuliers qui, pour des raisons complexes médicales, ne réagissent pas. Mais grosso modo, mais le vaccin contre l'hépatite, il n'est pas plus efficace. C'est le vaccin contre la grippe, c'est 20% tous les ans. Ça n'empêche pas de le faire.
C'est 20% d'efficacité, le vaccin contre la grippe?
Chez la personne âgée, oui.
Ah oui, c'est quand même pas énorme. On part au 0.
Pourtant, mais c'est indispensable de le faire, même chez les personnes âgées.
On part au 0826-300-300, là, mais vraiment le cap au sud. Bonsoir Diane de Perpignan.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Diane.
Est-ce que vous allez respecter les recommandations du conseil scientifique? Tiens, je sais pas, vérifier que les personnes âgées, par exemple, qui viennent chez vous, ont bien fait leur troisième dose, etc.
D'un mois, j'ai 59 ans, donc je suis pas si âgée que ça. Mes parents sont décédés, donc j'en ai pas beaucoup. Mais ma fille vient d'accoucher, donc je monte.
Félicitations.
Sur Orléans.
Longue et heureuse vie au bébé. Alors attendez, comment il ou elle s'appelle? On va lui souhaiter, les vraies voix vont lui souhaiter la bienvenue.
Ruby.
Eh bien Ruby, très joli prénom, on embrasse Ruby et ses parents. On vous écoute.
Merci. Donc oui, non, moi je vais monter faire Noël avec ma famille là-haut, avec mes enfants. Et je suis vaccinée les deux. Je me refais vacciner le troisième au mois de janvier. Et je ne m'en ferai pas une quatrième, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on nous dit deux, on était vaccinés. Maintenant on nous vient à trois au bout de 6 mois. Après ce sera là, maintenant on entend tous les 3 mois. À 3 mois, là la quatrième. Mais en plus je vais vous dire, quand à un moment donné, quand on était à la télé, on nous disait, ouais, il faut pas quand même les antibiotiques, trop d'antibiotiques tuent et on devient notre corps combat les antibiotiques. Mais là, c'est la même chose. Trop de vaccins. Nos corps vont le combattre. Les variants, même les variants, on va faire des variants par rapport à ce que les vaccins ne pourront plus les faire. Si on nous en fait trop d'un coup, comme ça, de la grippe, c'est un par an. Là, j'en va être trois pratiquement. Pratiquement en quelques mois. Non, mais il faut arrêter.
Alors, justement...
Et en plus, je vais vous dire, on est en 3 vaccins. À cet été, quand on n'avait pas besoin de faire le 3e vaccin, pourquoi on les a gardés? Pourquoi on ne les a pas envoyés aux pays pauvres? Parce que ces variants viennent des pays pauvres qui ne sont pas vaccinés. Mais on est tellement égoïstes qu'on pense qu'à nous faire le 3e, le 4e vaccin et on ne vaccine pas les pays pauvres, qu'eux, ils en ont besoin pour ne pas qu'on ait les variants. Et ça, c'est inadmissible.
Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Diane de Perpignan. Joyeux premier Noël à Ruby, donc, et félicitations aux parents à nouveau. Pascal Charbonnel, vous êtes médecin, vous comprenez quand même que les gens ne comprennent plus. On nous avait dit, le pass sanitaire, il y a 2 doses, une fois que tout le monde a les 2 doses, c'est terminé, etc. On se demande où on va, et les gens, comme Diane, se demandent où ils vont, parce qu'ils disent, moi déjà, j'ai pas envie de faire 3e dose, parce que j'ai été malade après la 2e, et qu'ils disent, après, ça va être la 4e, parce qu'on nous parle déjà de la 4e dose, soit dit en passant, hein.
Je ne sais pas qui est le « on » dans l'histoire.
Ah bah, il y en a plusieurs qui en ont parlé. Allez-y, je vais vous chercher des noms.
Vos confrères sur les plateaux télé.
Est-ce que, oui, mais si on s'appuie sur les références scientifiques, on ne sait pas. On ne sait pas s'il faudra faire une 4e dose. Mais là, on est quand même à l'échelon de la planète à plusieurs milliards de doses injectées et avec une efficacité exceptionnelle. Là où je rejoins votre auditrice,
Diane. Quand elle,
si on avait fait l'effort d'aller vacciner dans les pays qui sont avec un taux de vaccination bien moindre, on aurait eu moins de soucis sur l'apparition de variants. Et là, on a plutôt de la chance parce que le variant qui arrive, il est très contagieux et plutôt sympathique sur le plan morbi-mortalité.
Le terme alors, sympathique est amusant.
Franchement, quand vous voyez l'état de, dans la mesure où il fait moins de morts, oui, il est moins antipathique, allez, on va dire que l'autre. Mais quand on parle d'efficacité et qu'on dit, j'ai connu l'époque où on vaccinait pas les gamins contre la rougeole, j'ai connu les encéphalites post-rougeole, etc., où il y avait pas de vaccin, on a oublié cette période-là. Alors, effectivement, on est un peu surprotégé, mais je reprends la déclaration du ministre allemand de la Santé, qui a été un peu brutale, mais tout à fait efficace, hein. C'est à la fin, les gens, ils sont vaccinés, guéris ou morts. Il n'y a pas d'autre solution.
Ah bah ça, c'est sûr qu'ils sont vaccinés, guéris ou morts. Oui, c'est sûr que de toute façon, là, il ne peut pas se planter parce qu'on mourra tous un jour, soit dit en passant. Oui, là, le ministre de la Santé allemand, s'il a le prix de l'humour politique outre-Rhin, là, il est sûr d'avoir gagné.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que la réalité de cette maladie, c'est qu'effectivement... elle est peu immunisante et le fait de dire on va développer ces anticorps en étant en contact du virus, ça ne fonctionne pas.
Merci.
C'est la réalité.
Merci beaucoup. Alors, c'est Jean-François Delfraissy qui a parlé il y a quelques jours, juste avant le week-end, de la 4e dose qui était peut-être à envisager. Donc, le président du conseil scientifique, d'ailleurs. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important.
Comme tous les vaccins.
Merci beaucoup, Pascal Charbonnel, médecin et membre de la Fédération des médecins de France. Verdict sur Twitter. Allez-vous respecter les recommandations du conseil scientifique pour les fêtes? Vous êtes 93,7% à dire non. De suite, on va prendre la direction de l'Occitanie. Vous savez pourquoi?
Non.
Eh bien, c'est la première région de France pour les saisies de cannabis en 2021. On se retrouve avec Philippe Rossi et Les Vraies Voix.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Didier Lebray. Et mon cher Philippe Rossi, en 2021, Alors, c'est pas tout à fait terminé, hein, mais là, on tient le bon bout, il reste 17 jours. L'Occitanie est la première région de France pour les saisies de cannabis.
Le ministère de l'Intérieur a rendu public quelques-uns des chiffres de la délinquance. Et donc, alors voilà, on l'apprend officiellement, l'Occitanie est donc la région qui a permis le plus de saisies de cannabis. Policiers, gendarmes, douaniers en ont saisi 21 789 kilos de cannabis, c'est précis, qui arrive loin devant la Nouvelle-Aquitaine, 11 590 kilos, et l'Île-de-France, 10 024. Kilos. Bonsoir Didier Martinez.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Didier. Vous êtes secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police pour l'Occitanie. Première région de France donc pour les saisies de cannabis. Est-ce que ce chiffre, ce classement en tout cas, vous étonne ?
Absolument pas. On en a pris connaissance au travers d'un article de presse et effectivement, ça va dans le sens un petit peu de ce qui est pratiqué ces derniers mois, puisqu'on a une orientation et une offensive extrêmement marquée de l'ensemble des forces de l'ordre vers les trafics, vers les points de deal. Et il est vrai que ça ne peut que porter ses fruits à un moment donné, d'autant que les services et unités spécialisées ont davantage à consacrer leur temps et leur énergie à cette mission, tout simplement dans un premier temps parce que au travers des périodes tantôt de confinement, tantôt de couvre-feu, tantôt de moindre activité extra point de deal et extra stupéfiant, si vous voulez, on a pu se consacrer à cette mission. Donc effectivement, les saisies sont conséquentes, les interpellations, les démantèlements aussi, mais au travers de tout ça, il faut bien se dire que malheureusement, chaque point de deal démantelé est immédiatement reconstitué, et le ratio entre les volumes saisis et ceux qui nous échappent, ben, il reste toujours aussi marqué, hein. Vous savez, 100 kilos saisis, c'est qu'une tonne a été distribuée, et si on saisit une tonne, c'est que 10 tonnes nous ont échappé, donc le ratio reste le même.
Il reste encore du boulot. Comment ça se fait que vous saisissez autant ? Est-ce que vous avez eu des moyens supplémentaires ? Est-ce que c'est un changement de stratégie ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, c'est à la fois dans la stratégie, bon, les moyens aussi, les offensives, bien que, vous savez, le travail de terrain reste très compliqué. Les chauffeurs qui préviennent systématiquement de l'arrivée des policiers, des contrôles éventuels, l'hostilité qui nous est opposée dans les quartiers, c'est très compliqué. C'est un prix très lourd aussi qu'on paye dans ces offensives-là, en dégâts matériels et en blessés en service. Cependant, l'approche que nous avons, c'est de systématiquement contrôler, interpeller, saisir, et puis les pratiques, on les connaît, on sait à force où sont cacher les stocks, où sont systématiquement les produits, les substances. On arrive, il n'y a plus besoin de remonter des grandes filières pour saisir parfois de façon fortuite sur les véhicules qui roulent. Vous savez, pendant le confinement, c'était facile. Tout ce qui bougeait la nuit, c'était contrôlé. Et s'il y avait des substances dedans, on les trouvait facilement. Bon, là, le contexte va certainement évoluer quand les choses vont rentrer dans l'ordre et le travail, il va se compliquer à nouveau.
Alors, le ministère de l'Intérieur a également communiqué sur les bons chiffres de la délinquance en France. Voilà, quelques mois de la présidentielle. La moyenne annuelle des cambriolages a baissé en Occitanie entre 2018 et 2021, moins 38%. Là encore, est-ce que ce chiffre vous étonne ? Est-ce qu'au quotidien, en tout cas sur le terrain, vous le constatez, vous le ressentez, cette baisse ?
Je vous dirais par la force des choses, et même mots et même conséquences. Quand les gens étaient chez eux, ne bougeaient pas, il y avait moins de cambriolages. Je veux dire, c'est facile d'avoir des bons chiffres, que ce soit en sécurité routière, en cambriolage ou en agression, en ce que vous voulez. Dès lors qu'on a traversé une période très compliquée, donc là, se satisfaire de ce genre de statistiques, c'est un peu facile, je trouve. En tout cas, le point de vue du policier que je suis et de l'ensemble de mes collègues, c'est que la situation s'aggrave considérablement. Les violences, les agressions, les hostilités contre les forces de l'ordre atteignent vraiment un paroxysme. Et là, il faut absolument en finir avec l'impunité, avec cette absence de réponse pénale, cette absence de dissuasion. Et je crois que c'est le gros enjeu, tant des élections à venir, mais aussi du futur et de l'avenir sécuritaire de notre pays.
Alors c'est vrai que la délinquance baisse selon le ministère de l'Intérieur, mais vous avez raison Didier Martinez, c'est pas vraiment nous ce qu'on ressent au quotidien. Secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police pour l'Occitanie, merci à vous monsieur Martinez.
Merci.
Merci Didier Martinez. Tout de suite, on va retrouver nos deux vraies voix du jour. Yves de Toulouse, il veut parler de la distanciation pendant les fêtes et on aura Gérald de Montpellier qui veut revenir sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont restés avec nous, Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel, et Didier Lebray, ancien ambassadeur et consultant, notre première vraie voix du jour, direction une ville qui m'est chère, Toulouse, la Ville Rose. Bonsoir Yves.
Bonsoir Sud Radio, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Et vous voulez parler de notre second débat sur les recommandations du Conseil scientifique. Vous allez les suivre à la lettre.
Voilà. Alors, en trois points. Premier point, vu mon âge, je n'ai jamais eu besoin de recommandations d'un comité scientifique.
On peut vous poser une question indiscrète. Quel est votre âge, Yves ?
Mon âge est jeune, voilà, mon âge est jeune.
D'accord.
Je suis un retraité, voilà.
Très bien.
Un retraité, voilà. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin qu'on vienne me donner la main, et parce que si on me donnait la main, je dirais, on m'infantilise, et si on me disait, si on me donnait pas la main, je dirais, on me dit pas. Donc, vous voyez, dans ces deux axes de personnes qui sont contre, qui sont infantilisées, paraît-il, ou qui sont trop, à qui on donne des instructions et qui, comme on leur donne, ne les suivent pas. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Depuis le départ, je m'en tiens à ce que je fais, c'est-à-dire le masque, les distanciations sociales. Est arrivée la vaccination première, la vaccination seconde et la vaccination troisième. Mais en même temps de tout cela, je n'ai jamais, jamais arrêté le masque. Et pourtant, sur Toulouse, souvent, on n'avait plus besoin, paraît-il, puis après, on avait besoin, puis après, ci, puis après, là. Je n'ai jamais arrêté mes recommandations de bonne loi personnelle. Le pass sanitaire, c'est quelque chose que j'aurais mis moi depuis très longtemps, et même, si je peux donner un petit avis personnel, ceux qui ne sont pas vaccinés contraignent de rester chez eux, avec un peu d'humour, comme l'armée ne fait pas trop grand chose, on mettrait un planton devant la maison de chaque personne pour l'interdire.
Excusez-vous, l'armée qui est au Mali, etc., elle a quand même du boulot. Hein.
Vous avez saisi que c'était avec un peu d'humour.
Bien sûr, on l'avait compris, évidemment. Voilà. Alors, on va faire réagir nos vraies voix. Tiens, Didier Lebray. Vous qui avez travaillé à l'Élysée, est-ce qu'on peut mettre les militaires? Mais c'était de l'humour.
On les a déjà mis suffisamment à l'épreuve
entre Sentinelle, etc.
La Sentinelle, donc je pense que... Non, mais c'était un trait d'humour, on l'a pris comme tel. J'entends ce que vous dites sur le fait que vous avez vous-même pris des décisions qui vous paraissaient de bonne aloi, comme vous avez dit. Je pense qu'effectivement, il faut continuer. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la très grande majorité de nos compatriotes aient choisi de se faire vacciner, ce qui est quand même aujourd'hui la meilleure posture à avoir pour éviter les désagréments de se retrouver aux urgences, bien je pense que ça veut dire que notre pays est parfaitement conscient de ce qui peut nous sauver et faire en sorte qu'on puisse retrouver le chemin de la vie normale le plus vite possible.
Mais je vous pose une question très indiscrète. Vous avez des enfants, vous leur faites encore la bise, Didier Lebray, ou pas ?
On est en train de limiter au maximum, depuis le Covid, les interactions de ce type. Bon, avec ses enfants, de temps en temps, on a besoin de les prendre dans ses bras, quand même. Oui. Mais bon, voilà, quand on sait exactement où on en est, combien de fois on a été vacciné, on fait des tests régulièrement. Mais c'est vrai que je trouve que, de manière générale, on a désappris un peu cette façon très française de se prendre dans les bras.
Absolument. Caroline Pilaf.
Cette manière latine. Non, je n'ai pas d'enfant, mais je ne fais pas la bise et j'évite au maximum de serrer la main. Alors, il y a quelque chose d'ambivalent qui va tous vous faire rire, que j'ai constaté quand même depuis le début de cette crise, c'est que on ne peut pas, sur le principe, embrasser nos parents, nos enfants, mais on peut avoir des rapports intimes avec notre compagnon.
Qui peut prendre le RER ou le métro tous les jours. Oui.
Qui ne vit pas au fin fond d'une grotte. Bref, digression faite. Oui. Non, mais je pense que ce que notre auditeur dit, c'est ça, c'est du bon sens. On pense d'abord à nos proches, on s'inquiète pour eux. C'est de l'intérêt général, tout simplement. Après, chacun fera bien ce qu'il voudra. Mais je pense que la majorité des Français, comme des autres humains qui vivent également cette pandémie, respecteront autant que possible, parce qu'on sait très bien qu'on en a encore pour des années, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais je peux aussi, de manière minime, comprendre la transgression. C'est-à-dire que les gens ont tellement respecté jusqu'à présent. C'est d'une lourdeur tout ce qu'on vit. Bien évidemment, comme le disait le médecin tout à l'heure, on n'est pas en 39-45, on n'a pas vécu sous l'occupation, on n'était pas Anne Frank pendant ces confinements. Mais il y a un moment donné, on a besoin de retrouver un peu de collectivité, de sociabilité. Et c'est ça qui nous manque le plus en ce moment.
Merci beaucoup Yves de Toulouse. On vous souhaite d'ailleurs d'excellentes fêtes de fin d'année. On va 250 km à l'est, direction Montpellier. Bonsoir Gérald.
Alors, bonsoir. Déjà, c'est pas Montpellier. À chaque fois, vous vous trompez. Ah. Moi, je suis dans Lyon. Je suis à Auxerre.
Ah oui, effectivement. Non, mais on m'a mis Montpellier. Errare ou Manumès, cette persévérare, diabolicum. Et... Là, c'est pas 250 km à l'est de Toulouse. C'est beaucoup plus loin. Et vous voulez nous...
Je vous rappelle quand même qu'à Auxerre, on a un climat équatorial et qu'il faisait 23 degrés aujourd'hui.
Ah oui, 23 degrés à Auxerre, c'est pas mal, oui.
C'est une plaisanterie, hein, bien évidemment.
Ah bah, excusez-moi, il faisait 18 à Tarbes hier, et Tarbes, c'est quand même pas loin des Pyrénées, donc 23 à Auxerre, ça m'aurait pas paru si surprenant que ça. Alors, vous voulez nous emmener sur un climat qui est quand même plus chaud que celui d'Auxerre de Tarbes, vous voulez nous parler de la Nouvelle-Calédonie, Gérald?
Oui, alors exact. Alors tout à fait. Alors la Nouvelle-Calédonie, faut se rappeler quand même que c'est un producteur de nickel, si je me trompe pas.
Absolument.
Très très gros producteur de nickel, avec une faune magnifique, avec du corail, etc. Un petit peu partout. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ils ont refusé apparemment l'indépendance. Et je comprends tout à fait d'une part, et d'autre part, je comprends aussi que la France a plutôt intérêt à ce que cette indépendance, on la garde, puisque je rappelle quand même que la Chine est derrière, et que la Chine, elle voudrait bien s'octroyer un petit peu ce petit paradis, parce que c'est, ça rapporte un petit peu d'argent, ou ça rapporte effectivement, c'est stratégique, soyons clairs, c'est très stratégique, mais je rappelle aussi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande font des bisounours à la France en disant « oui, gardez votre indépendance, puisque si la Chine... »
Gardez la Nouvelle-Calédonie. Enfin, alors qu'à une époque, il y a 40 ans, ils voulaient absolument que les Français dégagent du Pacifique Sud, soit dit en passant, hein.
Absolument. Mais je pense que il y a eu aussi un très gros taux d'abstention, si je me trompe pas. Et il est vrai que cette stratégie, il faut la conserver, puisque on a quand même. Je crois que la France reste le seul pays dans le Pacifique à conserver la Nouvelle-Calédonie, donc quelque chose d'important.
Et la Polynésie. Alors justement, Gérald, d'Auxerre, notre ami Didier Lebray a vécu en Nouvelle-Calédonie pas mal d'années, et donc, quand vous entendez Gérald, qu'est-ce que vous lui répondez, Didier?
D'abord, on vient de loin, faut se souvenir des différentes étapes qu'a traversé la Nouvelle-Calédonie au moment de ce qu'on appelait pudiquement les événements, les accords de Matignon, la volonté aussi de rattraper le retard. Donc il y a eu tout un plan de rattrapage, de scolarisation des Kanaks, de façon à ce qu'ils soient acteurs aussi de leur propre destin, de la régionalisation, la possibilité aussi pour les régions minières de pouvoir être contrôlées, de faire aussi des Kanaks, des acteurs de leur propre économie, de leur propre industrie. Donc tout ça montre que finalement, ça s'est allé dans la bonne direction, gauche-droite confondue, pour le coup, même si les accords de Matignon, c'était sous Rocard à l'époque de François Mitterrand, mais il se trouve qu'il y a une certaine continuité républicaine, et c'est heureux, dans la façon d'essayer de régler au mieux les revendications autonomistes ou indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie. Et comme vous l'avez rappelé, c'est une présence qui est essentielle pour la France, dans une région qui l'est tout autant. Vous citiez le nickel, on peut citer aussi l'exploitation des nodules, qui à terme peut-être une ressource aussi essentielle. Et on voit bien, au moment, par exemple, où on avait négocié ce fameux accord qui a été dénoncé sur les sous-marins d'attaque...
Avec l'Australie,
si l'Australie nous avait traité à l'époque comme partenaire de premier rang, c'est parce qu'on a aussi cette présence forte dans le Pacifique. Donc c'était, pour beaucoup de raisons, il faut absolument maintenir cette présence.
Caroline Pilastre.
Oui, je trouve que ce résultat est une bonne chose. Moi, maintenant, je m'inquiète pour le vivre ensemble, parce que j'ai écouté certains témoignages de la population qui est quand même assez fracturée. Et c'est vrai que je me dis qu'au quotidien, ça va être compliqué pour certains d'entre eux de continuer à défendre soit l'indépendance, soit le fait de rester sous le joug de la France. Donc, voilà.
Un dernier mot, Didier Lebray. Vous avez peur, comme le dit justement Caroline Pilastre, qu'on revienne à des affrontements?
Non, je crois
comme dans les années 80.
Je crois que les communautés
dont
aujourd'hui...
vous connaissez bien cette
non,
île.
Non, je crois que les communautés d'ailleurs qui sont multiples. Hein, il n'y a pas que des Kanaks ou des oreilles, comme on dit, ceux qui viennent de France.
Oui,
il y a
les
aussi, il y a aussi le métro. Il y a des Caldoches, il y a des Wallisiens, des Futuniens, il y a des Polynésiens,
des Vietnamiens,
il y a des Vietnamiens,
des Chinois.
Enfin, bref, c'est un vrai
melting pot.
C'est
hein,
un vrai oui, melting pot. Fait. Et je pense que bon, il y a aussi, si j'ose dire, le repoussoir de l'ancien condominium des Nouvelles-Hébrides, qui après son indépendance,
qui est devenu les Vanuatu,
Vanuatu a chuté corps et bien. Donc je pense que nos amis et partenaires mélanésiens savent très bien que la présence de la France est aussi une garantie de stabilité et de développement.
Merci beaucoup, Gérald de Dosserre. Et oui, la Nouvelle-Calédonie, on en a parlé sur Sud Radio. C'était d'ailleurs notre grand débat dans Les Vraies Voix vendredi dernier. Bon, Les Vraies Voix, là, on va jouer vraiment les Pères Noël. Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Ah, vous nous appelez d'Argelès-Gazost. Alors, on a une des vraies voix qui est de Beausilienne, à quelques kilomètres d'Argelès-Gazost. Vous connaissez, c'est Françoise de Goix.
Ah oui, je connais.
Et ma mère a passé toute son enfance à Vieille. Vous connaissez aussi entre Lucin-Sauveur et Barèges.
Ah oui, je connais aussi.
Et je vais faire une annonce. D'ailleurs, les vraies voix seront du côté de Lussardidène au mois de janvier, au début du mois de janvier. On vous tiendra une station de ski, on ne peut plus connue. On vous tiendra au courant. Chantal, vous avez été la 18e à appeler le 0826-300-300. Et avant de vous dire ce que vous avez gagné, je vais vous poser une question. Aimez-vous les sensations fortes?
Moi, moins, mais mon fils adore.
Alors écoutez, on va mettre le jingle et on va vous dire ce que vous avez gagné. Votre fils, il aime vraiment les sensations fortes, Chantal?
Oui.
Parce que vous avez gagné un saut en parachute en tandem.
Oh, il va être heureux.
Avec Xtrême. Alors, notre ami Didier Lebray a déjà sauté en parachute. Vous voulez qu'il vous raconte? Votre fils, il écoute là?
Oui, il est à côté de moi.
C'est comment, Didier, un saut en parachute en tandem?
Alors, j'ai deux souvenirs. Le premier, quand la porte s'est ouverte du petit avion qui faisait beaucoup de bruit, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais fou dans cette galère. Enfin, tout d'un coup, j'ai vu le vide sidéral et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'ai pas eu le temps de terminer ma réflexion. On est en tandem, donc vous partez ensemble. Et la personne qui avait, je sais pas combien de milliers de sauts, donc vous risquez absolument rien, ni pour vous, ni pour votre fils, sont des grands professionnels qui font ça, qui sont parfaitement aguerris. Avait oublié de me dire qu'on plongeait pas toujours de manière harmonieuse. Et donc, on a fait toute une série de tonneaux qui a duré sans doute 30 ou 40 secondes. Et là, j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Mais je vous rassure, à la fin des fins, on s'est mis face à la terre. Et là, ça a été une ou deux minutes de pur bonheur. Vous volez, vous faites ce qu'aucun homme n'imagine être possible. Vous êtes un oiseau. Et là, c'est quelque chose... Franchement, si c'était à refaire... Je le referai pas forcément, mais en tout cas, j'envie votre fils ou vous-même qui allez découvrir cette sensation unique dans l'histoire des hommes.
Chantal, comment s'appelle votre fils et il a quel âge?
Il a 18 ans et il s'appelle Liam.
Liam, ah ben on le félicite, il est content là, il fait des sauts en se préparant à faire le grand saut.
Il est stoïque parce que c'était un souhait profond de faire ça un jour. Et là, il croyait que c'était une boutade que je lui dise que j'ai gagné à Sud Radio. Et il n'a pas encore d'émotion, là.
Ah bah écoutez, ça va venir quand il va sauter en tandem avec Xtrême à Lézignan-Corbières. C'est pas à côté, mais c'est pas très très loin d'Argelès-Gazost. On vous félicite. Vous écoutez régulièrement Sud Radio, Chantal?
Ah oui, du matin au soir, tant que je peux.
Ah bah écoutez, c'est vraiment un plaisir. Et alors, vous direz à Liam de nous raconter comment c'est, d'accord?
J'y manquerai pas.
Eh bien, écoutez,
il vous fera part de ses sentiments et sensations.
Il fera le comparatif avec Didier Lebray, c'est sympa. Et on fera les juges de paix, nous les vraies voix.
Joyeux Noël.
Bravo à vous et bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël, Chantal, Liam et tous
Joyeux
vos
Noël,
proches.
Chantal.
Mon cher Philippe Rossi, là, vous allez sauter en parachute, notamment avec notre ami Jérôme Laverny.
Exactement,
mais bon,
en tandem.
Le studio,
Alors, le saut en parachute,
non,
c'est pas tout. On va déjà commencer par faire une émission en tandem, ce sera déjà pas mal. On verra pour le saut en parachute. Les voies de l'emploi, restez avec nous dans quelques minutes. Il sera question de mobilité professionnelle. Est-ce que vous savez, par exemple, que 40% des cadres pensent à changer d'entreprise dans les 12 mois qui viennent? Alors, il n'y a pas que depuis la crise du Covid. Eh bien, de nombreux Français veulent changer de job, d'entreprise, de métier, de région. On en parle dans quelques instants
avec Jérôme Lavernier, nos invités, la DRH de Disneyland Paris ou encore la DRH France du groupe Korian, les vraies voies de l'emploi avec vous évidemment 0826 300 300. Mais dans l'immédiat, voici Stéphane Moller, voici Conseil de famille.